Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Galère 88.4, votre radio, vous savez, consacrée à l'actualité, les 8h pile sur les ondes de Galère, et on est ravis de vous accueillir, et ce jusqu'à 10h. Anthony au micro, accompagné de Richard, que je vais saluer incessamment sous peu. On salue l'absence de notre Christian, qui n'est pas avec nous, et qui fera son retour la semaine prochaine à la même heure sur les ondes du 81.4. Évidemment, on rappelle qu'on est audible sur le www.radiogalère.org, tout en minuscule, évidemment, sur toute la sphère mondiale. Et pour ceux qui possèdent la RNT, la radio numérique terrestre, c'est le canal 8C. On vous rappelle que malheureusement, et depuis quelques semaines, le standard n'est plus réactif et ne fonctionne toujours pas. Les techniciens sont de qualité, mais trouveront certainement la situation et vont arranger la situation prochainement. Donc vous ne pouvez plus nous appeler au standard comme d'habitude pour interréagir, mais il n'en demeure pas moins que vous êtes à l'écoute, que vous pouvez réagir également, vous en avez l'habitude, par le réseau, par mon numéro de téléphone, pour le réseau habituel. On va donc balayer rapidement les journées internationales du jour avec Richard. Dans 3-4 minutes, on aura le plaisir de recevoir le Grimoire du Phénix. On vous expliquera ce que ça veut dire, le Grimoire du Phénix, avec notamment Élodie Potier et Guillaume de Souza qui sont avec nous. On va parler de numérologie pendant près de 35 minutes sur les ondes du 81.4. C'est une première et certainement pas une dernière, donc on est ravis de les accueillir. Ça, c'est jusqu'à 8h40. Il y aura une pause musicale. À partir de 8h45, on fera un dossier spécial sur la belle fête de mai avec Christophe Rodensperger, le directeur de la Maison pour tous, Léon Lagrange, qui nous parlera de cette belle fête de mai qui aura lieu dans 3 semaines. C'est un grand, grand temps important pour les Marseillais. Et on parlera notamment de toute la programmation. Il y a eu un plateau TV, par exemple, hier, en direct sur YouTube, qui a eu lieu. On parlera du quartier, des rues, des habitants, de la proximité sociale. Il y aura beaucoup de choses à dire. Et puis, on conclura notre magazine d'actualité de 9h30 à 10h avec Femmes Solidaires, Annie Carsanti, également Madeleine Hembert, qui seront présentes avec nous pour nous parler de femmes délivrées. Voilà, c'est un salon du livre de femmes engagées, et ça sera sur les ondes du 88.4. Bonjour à nos invités et bonjour à toi, mon cher Richard, et évidemment bienvenue à toutes les auditrices et auditeurs de Galère.
Eh bien, auditeurs, auditrices, bien entendu, nous saluons nos invités qui sont déjà sur le plateau. Comme chaque semaine, je vais présenter les journées du mondial du jour. Aujourd'hui, il y en a pas mal.
On veut alors, tout savoir.
Eh ben oui, mais alors là, bon. Alors, vous avez déjà la journée où, éducativement, on ne peut plus donner de fessées aux enfants. Vous vous rappelez peut-être, hein, bon.
Il fut un temps, évidemment.
Voilà, mais c'est la journée aujourd'hui de rappeler à tout le monde que ça se fait pas. Alors ensuite, nous avons la journée des handicapés aussi, avec les accessibilités de chaque lieu. Parce que, bon, c'est vrai que tous les pays font des efforts, mais enfin, il reste encore une marge, et donc on pense bien à eux dans leurs difficultés de chaque jour. Voilà, alors ensuite on va passer à autre chose qui est complètement différent. Aujourd'hui c'est également la journée des véhicules d'époque. Donc ben voilà, si vous voyez défiler des voitures, collection, etc., sachez que c'est la journée aujourd'hui.
Oui, et j'ai vu qu'il y a pas mal de grandes villes qui en font la promotion, notamment
oui,
sur des défilés,
oui,
sur les voitures.
C'est une bonne chose aussi, parce que c'est notre histoire, c'est notre passé, et voilà, c'est bien. Un peu plus festif, c'est la journée aujourd'hui du jazz.
Génial.
Alors,
ça va te ravir, Richard, toi qui es un amoureux du jazz.
Oui. Oui, moi je vais souvent dans les petites boîtes de jazz, entre autres. Et on peut dire que chez Marseille, maintenant, on est très lotis. On a plusieurs boîtes de jazz spécifiques. Et allez-y, parce que les représentations sont avec des gens de qualité. Et ça vaut le coup d'aller se détendre, bon, de passer un bon moment. Et puis pour finir, alors là, c'est un sujet qui intéresse les personnes qui sont ici.
Non, numérologue.
C'est la journée mondiale de prière pour le Vatican.
Ah.
Vous voyez.
Il y voit un lien.
C'est pour essayer d'avoir des vocations dans ce domaine, etc., spirituel. Et puis, voilà, bon, on sait que Nos invités vont parler bien sûr de d'autres choses, mais il y a toujours une. Ils me diront, le rapprochement, il y a un rapprochement d'abord, hein.
Sur voilà. Le côté spirituel. Merci en tout cas, ouais. Richard, pour les annonces. On est bon, on a fini sur les annonces. On est d'accord.
Oui, ben c'est déjà pas mal aujourd'hui.
C'est déjà très bien, évidemment. Et merci pour cet éclairage, parce que si tu le fais pas, on les oublie.
Oui.
Et Dieu sait si c'est important de les rappeler, notamment pour les soutenir et puis pour faire un éclairage sur différentes structures et différentes actions symboliques. 8h05 sur les ondes de Radio Galère. On poursuit donc, comme vous l'avez indiqué précédemment, on accueille ce matin en direct sur les ondes du 88.4 Élodie Potier et Guillaume de Souza qui sont numérologues et qui sont avec nous. Bonjour Élodie.
Bonjour.
Voilà, merci d'être avec nous sur les ondes de Radio Galère. Et bonjour Guillaume.
Et bonjour.
Voilà, on est ravis de vous accueillir. On dit tout parce que transparence totale, Guillaume et Élodie sont en couple dans la vie de tous les jours. Ils vont nous raconter même d'ailleurs un petit peu cette rencontre. Et notamment, on peut dire aussi que vous êtes d'un univers qui est complètement détaché. Aujourd'hui, on va parler du concept et du format de la numérologie. Guillaume de Souza est donc créateur de Piscine. Élodie Potier est rédactrice web. L'objectif, expliquez-nous un petit peu. Alors, on va pas jouer fleur bleue, mais c'est toujours sympa d'évoquer la rencontre et puis d'évoquer cette trajectoire sur la numérologie. On va décrypter et expliquer à nos auditrices et auditeurs ce que ça représente, ce que ça engendre, comment en tout cas c'est développé et puis comment vous l'avez tramé, comment vous l'avez connecté, notamment entre vous. Je m'adresse à la fois Élodie et Guillaume. Peu importe, n'hésitez pas à prendre la parole. Alors, on démarre avec Élodie Potier.
Alors oui, c'est connecté en fait, notre histoire, notre relation et la rencontre avec la numérologie, tout est interconnecté puisque c'est notre rencontre qui a bouleversé notre vie et qui nous a amené à chercher à mieux nous connaître individuellement pour mieux nous comprendre ensemble. Donc c'est ce cheminement de notre rencontre humaine qui nous a amené vers
vous parlez de bouleversement, de changement de vie,
ouais.
Radical. Quand j'ai préparé l'émission avec Guillaume, il me l'a répété à plusieurs reprises et je trouvais ça extrêmement accrocheur, en me disant que c'est cette rencontre là qui en tout cas a permis une nouvelle trajectoire, une nouvelle dimension, j'imagine psychologique, pédagogique, humaniste et autres. C'est vraiment ça qui a fait la différence. Et vous étiez pas préparé en tout cas à la numérologie, il y avait pas de... Est-ce qu'il y avait un affect? Est-ce qu'il y avait un passé? Est-ce qu'il y avait autour de vous des sensibilités qui gravitaient autour de ça? Parce que tout à l'heure, Richard évoquait le côté spirituel. Est-ce que la numérologie, c'est de l'astrologie? Est-ce que c'est le côté cartomancie? Enfin voilà, dites-nous un petit peu comment vous étiez.
Est-ce qu'il y a des éléments qui se rejoignent?
Alors, oui. Pour moi, par rapport à mon métier, créateur de piscine, on travaille beaucoup avec Pythagore pour faire les équerrages et tout ça. On connaît très bien le théorème. Et il s'avère que Pythagore a ramené la numérologie en Occident.
Ah tiens, ça on savait pas. Ça c'est intéressant quand même.
Et du coup, pour moi, Pythagore a toujours fait partie de ma vie parce que j'étais passionné même à l'école. J'adorais ce cours-là. Et quand j'ai appris que Pythagore avait ramené la numérologie, j'ai dit bon ben feu, on y va, on continue l'histoire.
C'était déjà un signe. Et sur votre rencontre, Élodie, Guillaume, qu'est-ce qui a fait que ça a basculé? Vers ça, vous rédactrice pardon web, on est d'accord qu'il n'y a pas de lien de cause à effet entre la rédaction et la numérologie. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes dit on va se lancer dans cette trajectoire là, dans cette aventure là, parce que c'est peut-être une des aventures de vos vies.
En effet, il n'y a pas de lien entre numérologie et rédaction web. Et je ne m'attendais pas du tout à d'ailleurs un jour rentrer dans cet univers. Moi, je suis une personne de base très scientifique, très, très cartésienne. Alors, j'adorais les nombres, mais plus en mathématiques que ce que je les emploie aujourd'hui.
Guillaume, il y avait Pythagore, vous, il y avait déjà les nombres.
Quand même, il y avait déjà une connexion avec ça, mais bien loin de ce que j'aurais pu imaginer. Alors j'ai un parcours quand même un peu dans l'accompagnement humain parce que j'ai fait mes études en psychologie, mais en tout cas tout ce qui touche à la spiritualité, c'était pas du tout mon univers et ça m'est clairement tombé dessus avec la rencontre avec Guillaume. C'est quand même bien tombé. Après voilà, aujourd'hui nous on sait que il y a pas de hasard et que le chemin était ainsi, mais ouais. Voilà,
moi qui comprends, hein, bon, je le dis, je comprends pas grand chose dans ce domaine là qu'est-ce que vous pouvez m'expliquer pour que je puisse comprendre exactement le processus? Bon, c'est important parce que je vois pas du tout. Bon, je connais un peu quand même, mais enfin.
Justement, il se fait un petit peu le néophyte à la matière, mais c'est aussi les auditeurs qui sont derrière leur poste de radio qui se disent, mais en fait, c'est quoi la numérologie? Donc, vous nous avez expliqué un petit peu cette rencontre. Avant de développer ce que vient de dire Richard par rapport à la trame, qu'est-ce qui a fait que vous êtes orienté vers ça? C'est-à-dire que comment on se dit, tiens, on va faire la numérologie, on va accompagner, on va aider. Qu'est-ce qui a fait que?
Est-ce qu'en faisant ça, par exemple, pour moi, est-ce que je peux avoir sans le savoir des acquaintances avec vous et des choses communes avec vous?
Oui, tout à fait. Alors après, l'emploi de la numérologie est très très large. Nous, on l'a découvert, ça se présentait dans notre vie par l'intermédiaire d'une amie qui nous a parlé de numérologie, qu'on connaissait pas plus que ça, un peu comme vous en fait.
Oui.
Et puis on s'est dit, on essaye, on va le faire pour nous d'abord. Donc on a fait une séance avec une numérologue. Et en fait, on est resté scotché qu'à partir de notre date de naissance et de notre identité, elle puisse nous décrire telle qu'elle l'a fait, alors qu'elle ne nous connaissait pas du tout. Et dans des détails et dans des points de vie qui étaient tellement précis et tellement justes qu'on s'est dit, waouh, il s'est passé quoi?
Uniquement sur la date de naissance,
ouais.
Est-ce que l'astrologie rentre en considération par rapport au...
Alors non, parce que c'est basé sur la vibration des nombres, mais on peut quand même retrouver des points de comparaison. En fait, tous les outils comme la numérologie, l'astrologie, il y a le design humain, sont des outils de connaissance de soi. Il y en a d'autres encore, et on peut retrouver des points de comparaison, des choses qui sont similaires. Et c'est là que c'est intéressant, parce qu'on se dit, chaque outil ne dit pas sa vérité. En fait, toutes les vérités se regroupent. Il y a des nuances, mais de manière générale, les grands sont toujours les mêmes. Après, voilà, chacun choisit l'outil avec lequel il se sent le plus à l'aise. Moi, ce que j'aime avec la numérologie, c'est que c'est davantage pragmatique, c'est davantage concret. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça me l'apparaît. On peut l'expérimenter assez facilement et assez rapidement, contrairement à l'astrologie qui est très précieuse et très riche, mais c'est un petit peu plus complexe à appréhender. Et moi, j'aime ce côté plus scientifique, pour le coup, plus terre à terre.
Est-ce que ça peut aider des gens un petit peu perdus à se retrouver?
Complètement.
C'est-à-dire, ça c'est intéressant sur le format. Dites-nous un petit peu ce que ça peut amener, Guillaume, notamment.
Justement, par rapport à notre couple, c'était une phase où on avait des phases d'incompréhension entre nous et peut-être envers nous-mêmes, parce qu'on est l'effet du miroir de l'autre. Et avec la numérologie, quand on a commencé à étudier, à faire des plus qui donnent des moins, parce qu'on réduit, la numérologie réduit à un nombre, on travaille sur 9 nombres, les 9 premiers nombres. Et chaque nombre, quand on voit l'énergétique qu'il y a tout autour, nous donne plein de facettes. Et quand on voit l'effet négatif d'une chose, on peut aller complètement à l'inverse et voir le positif. Et ce qui peut mener à une clarté dans la vie et surtout recentrer notre pouvoir personnel.
Alors vous avez la chance d'avoir des formations Pythagore, etc. Puis vous, scientifique, pour quelqu'un qui comprend rien, est-ce que il peut se faire aider par vous, par d'autres personnes? Comment faut-il? Parce que c'est quand même une science, il faut quand même avoir un minimum peut-être de savoir, je sais pas.
Il faut connaître déjà de base la vibration des nombres de 1 à 9. Donc ça, c'est la base.
Où on peut trouver de l'aide chez
alors,
vous?
Qu'est-ce que ça veut dire, la vibration des nombres de 1 à 9? Nous, on veut savoir. C'est-à-dire que je dis une bêtise, mais c'est pas le cas. Je suis né le 6 juillet 1984.
Okay. Vrai,
techniquement parlant, qu'est-ce que ça engendre pour vous, techniquement parlant, et en tout cas pour moi?
Alors le 6 par exemple, ça va être une vibration d'amour, une vibration d'harmonie, c'est une personne qui va être très attentive à l'esthétique de manière générale, son esthétique ou l'esthétique de son environnement. C'est une personne qui prend énormément soin des autres, parfois au risque un petit peu de se sacrifier.
Donc c'est très vrai.
C'est important de revenir à soi.
À bon entendeur autour de moi.
Et le juillet, le juillet ça va être la vibration du 7. Juillet c'est un mois 7.
On va être conformiste.
Ouais, vas-y.
Et ils sont complémentaires en plus, c'est ça qui est beau.
Quelqu'un qui va chercher la technique, qui va aller chercher aussi la transmission. Il va accumuler beaucoup de savoir, le 7.
S'il en a.
s'il en a, mais en tout cas, il va aller la chercher. Quand on voit dans sa forme du 7, on a une grande barre en haut qui va être beaucoup plus dans le cerveau et il va ancrer dans la matière avec cette redescente dans la forme du 7. On peut regarder la forme, on peut lire l'énergétique dans la forme du nombre et
génial,
dans plein d'autres choses.
J'aime beaucoup l'idée qu'à travers, et en plus j'ai l'impression que ça peut se développer parce que là vous avez dit le 6, mais si je vous dis le 5, il y a une autre incidence. Ouais. Enfin, ça c'est. Moi je trouve ça. Et au départ, je suis extrêmement détaché. Souvent on dit oui, l'astrologie, c'est soit on aime, soit on est complètement. Et on peut placer ça ainsi. Et je trouve ça extrêmement intéressant d'avoir des liens. Alors. Ça me semble en plus fidèle plutôt à ce que je suis, mais évidemment avec beaucoup de défauts, rassurez-vous. Mais je trouve ça extrêmement intéressant. Et justement, comment on arrive à le corréler ? Est-ce que l'année de naissance aussi fait que ou on est vraiment sur le jour de naissance ?
Non, on prend tout. On prend la date de naissance complète. On calcule le chemin de vie. D'ailleurs, c'est la notion la plus connue en numérologie. Généralement, 90% des personnes connaissent leur chemin de vie, savent pas trop à quoi ça correspond, ils savent pas trop quoi en faire, mais ils le connaissent. Et après, nous, en séance, on va beaucoup plus loin. Le jour tout seul, il a une interprétation, le mois de naissance, l'année, dans l'identité aussi, parce que chaque lettre a la vibration d'un nombre. Donc le prénom a une signification, les prénoms secondaires quand il y en a, le nom de famille, les voyelles, les consonnes, la totalité de l'identité. Enfin, il y a des cycles de vie. En fait, chaque thème numérologique, c'est une combinaison unique de nombres. C'est l'ADN de la personne, si on doit faire un parallèle. Il n'y a pas une seule numérologie identique à une autre. Même les jumeaux n'ont pas la même numérologie puisqu'ils n'ont pas la même identité. Donc, il peut y avoir des ressemblances. On peut se reconnaître avec des personnes, etc. Machin, mais il n'y a jamais deux numérologies identiques.
Bon, nous, on triche un peu et il faut quand même... se rapprocher en tout cas d'Élodie et de Guillaume, et vous allez sur le grimoire du phénix parce qu'on vous a dit le 6. C'est juste pour avoir une idée, ça vous inspire quoi le 5 par exemple? Voilà. Et puis après j'arrête pour les...
Guillaume peut en parler, c'est un nombre qui le vibre. Tous les deux, c'est un nombre qui nous vibre particulièrement, mais c'est bientôt son anniversaire alors.
Ah très bien, 5 mai?
Eh oui, le 5 mai.
Très bien, donc ça doit être quoi? Ça doit être lundi, c'est ça?
C'est ça.
C'est lundi 5 mai, ok.
Le 5, c'est l'aventurier. C'est celui qui aime être entouré de personnes stimulantes avec un environnement stimulant. Le 5, il aime bouger. Quand on regarde dans sa forme, il a quelque chose de carré en haut. Au niveau de la tête, est très cadré dans son cerveau. Par contre, il a une roue au pied. Ça veut dire qu'il veut bouger de partout, il veut aller partout, il veut expérimenter. Le 5, il saute partout. C'est quelqu'un qui est très, très ouvert. Et il a quand même cette technique dans la tête, comme il est carré, c'est qu'il faut que ça soit technique.
Organisé, structuré, rigoureux.
Mais il peut aussi être bordélique parce qu'il a aussi cette roue okay. Et cette émotion qui fait qu'il arrive à transmettre l'émotion à travers la parole. C'est quelqu'un qui aime beaucoup discuter. Si on me lance à parler, je peux dépasser vite fait le temps.
En plus, Guillaume a du 9 dans un numérologiste qui vient... encore plus à rajouter du no limit. Le 9 ne sait pas se limiter, il a besoin de grands espaces.
D'ailleurs, on dit que le 9, si je me trompe, c'est le chiffre le plus puissant, enfin, forcément, parce que c'est le plus grand de 0 à 9. Mais moi, j'ai souvent entendu ça, comme quoi le 9 était un chiffre puissant. Et je trouve que j'ai jamais fait le lien, en fait, avec la forme, avec là, vous évoquiez tout à l'heure, fait que ça soit carré. Et ça a du sens, en tout cas. Je trouve que ça a du sens, ce que vous dites.
Mais ça a été créé, la numérologie a existé avant la forme des nombres. C'est grâce à la numérologie qu'ils ont pu avoir des brides.
Parlez davantage sur le micro, Guillaume. On veut capter vos propos.
Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont donné la forme des nombres au fur et à mesure de l'avancée dans le temps, avec l'alphabet et compagnie. Et
oui.
Chaque lettre de l'alphabet correspond à un nombre. Le A correspond à 1, le B correspond au 2. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire des réductions et trouver le numéro 2 partout, quoi. On a une adresse, on a un nom de famille, on a un prénom, on peut avoir un nom d'entreprise, on peut avoir une date de création d'entreprise aussi, on peut avoir les numéros existent partout.
Alors je vois que vous parlez d'accompagnement Éclat-Dion.
Oui.
Surtout pour des personnes qui ressentent besoin d'un changement. Donc c'est une aide, c'est quoi exactement l'éclat Dion.
Éclat d'ion, c'est mettre en lumière. On parle d'éclat. Et les ions, c'est les molécules, les cellules qu'on a à l'intérieur de notre corps. On a des milliards. Et avec la numérologie et l'accompagnement, parce qu'on a, on a d'autres outils aussi, éclat d'ion, c'est comme si on regroupait tous les outils qu'on a et qu'on les met à disposition de nos clients.
Les calculs doivent être difficiles, là, non?
Là, il y a plusieurs calculs, il y a plusieurs... Alors, c'est Élodie qui s'occupe de ça.
Ah, alors, Élodie...
Alors, expliquez-nous la fonction de chacun. 8h20 sur les ondes de Galère. On est en direct avec deux numérologues, Élodie et Guillaume. Le grimoire du Phénix, d'ailleurs, je vous invite à vous taper tout simplement... le grimoire, alors on va quand même l'épeler pour ceux qui auraient quelques doutes. Grimoire, G-R-I-M-O-I-R-E, et puis le phénix, comme le phénix.
Qui est un oiseau mythique.
Ouais, expliquez-nous.
Il faut le rappeler de l'Égypte.
Exactement,
hein.
Tout à fait.
D'où provient
qui
cette...
Qui est relié de ses cendres, non?
Oui, absolument.
On veut tout savoir.
Donc pour le grimoire du phénix, le nom en fait, le grimoire c'est par rapport au grimoire de la sorcière, puisque j'ai mon petit côté sorcière. C'est aussi le, c'est aussi
Guillaume a validé. Hein,
oui, bien sûr. Non, c'est aussi le grimoire parce que c'est un livre de savoir en fait, c'est un livre où on y met toutes nos connaissances. Donc c'est vraiment ça, dans le grimoire du phénix, on y partage aujourd'hui toutes nos connaissances et ça ne s'arrête pas à la numérologie. Et le phénix, c'est une symbolique qui nous représente tous les deux, cette renaissance en effet, on a eu avec notre rencontre un bouleversement dans notre vie.
Ça fait combien de temps, sans discussion ?
Ça fait 4 ans.
4 ans, et ça fait combien d'années que ça s'est développé? Moi j'ai vu a priori 2-3 ans, est-ce que c'est bien ça?
Ça fait 2-3 ans qu'on pratique la numérologie, oui. Pour les autres, après ça fait un petit peu plus qu'on connaît, puisqu'il a fallu qu'on se forme aussi.
Oui,
donc,
j'imagine.
Voilà, on s'est formé et puis ensuite on l'a proposé, mais la numérologie ça fait à peu près 4 ans, ça s'est présenté aussi assez rapidement dans notre vie et c'est ce qui nous a vraiment aidé nous, dans notre couple et dans nous qui on est, parce que en fait on est tous conditionnés par notre famille, la société, l'éducation à l'école, etc. Oui. Machin. Et au bout d'un moment finalement on oublie qui on est réellement, en tout cas on le met sous le tapis en mode c'est les autres qui ont la vérité et pas nous. Et bien nous avec la numérologie on reconnecte à notre vérité, c'est nous qui savons ce qui est le mieux pour nous et pas les autres.
Donc, ça c'est quand même...
Et vous heurtez au scepticisme un petit peu des gens dans ce domaine ou pas?
Ça peut arriver.
Même souvent.
ça peut arriver.
Vous,
après,
comment vous contrez ça? Enfin, contrer, c'est pas...
L'expérience, expérimenter en fait.
Des amis, des relations que vous avez pu persuader, qui ont trouvé au bout de vos explications quelque chose de bien.
Alors après persuader, je ne sais pas si c'est le bon terme. Chacun est libre d'aller là où est-ce qu'il veut aller. Mais quand nous on présente la numérologie, juste déjà. De faire calculer aux personnes la vibration de leur prénom. On les laisse faire le calcul, donc on leur impose pas une vérité, c'est déjà eux qui cherchent la vibration. Et nous, on a créé des outils pour que... En fait, nous, on vient après en complément, en explication, mais d'abord, on leur laisse les outils dans les mains et ils font leur propre analyse et ils font leur propre point de vue sur le sujet. Et après, on va un petit peu plus loin ensemble. Et souvent là, oui, on se dit ok, ok, il s'est passé quelque chose et les gens ils repartent avec vraiment. Pour nous, en tout cas, c'est important que les gens repartent avec quelque chose de concret. On le dit toujours, on vient pas donner une information, exprimer une vérité à une personne. On vient juste faire la poussière et remettre en lumière ce qu'elle sait déjà. Donc un numérologue n'apprend rien à personne, vient juste accompagner.
Non, mais c'est intéressant parce que c'est tout à votre honneur, en tout cas cette humilité, et de dire que vous détenez pas la vérité, vous apportez pas... parce que souvent on dit la numérologie, c'est basé sur la science, c'est basé sur quelque chose de... qui peut être extrêmement, j'allais dire, radical. Et donc, entre guillemets, si on vous dit que il en est ainsi, c'est qu'il en est ainsi. Vous vous dites qu'en fait, il y a des origines, il y a forcément des liens de cause à effet, mais qu'après, chacun est libre, en tout cas, d'appréhender, de vibrer, je pense. Vous ouais. Dites, c'est quelque chose qui vous est propre. Et je trouve ça extrêmement intéressant. C'est quoi le communiqué Phénix? Pour ceux qui ne connaissent pas, on parle aussi de... vous dites incarner son message. Vous vous adressez à qui aussi? Voilà. Grimoire de Phoenix, www.grimoiredephoenix.fr. Auditeurs, auditrices, vous y allez, vous tapez, et puis vous avez Elodie Potier, Guillaume de Souza, en tant que numérologue.
Alors, quand on a tapé ça, bon, ensuite, on a bien sûr des contacts avec vous. Ça se passe comment? Par Internet? Vous recevez des gens? Comment ça se passe concrètement?
Les séances, comment elles se passent?
Des séances de...
Comment vous?
Voilà.
Dites-nous les tâches, comment elles sont réparties?
Alors, on contacte sur le Grimoire de Phoenix. Il y a tout sur le site internet. En appuyant des boutons, on arrive assez facilement à joindre le grimoire. Tout se fait en ligne au départ, et prise de rendez-vous, on tombe sur Elodie qui nous répond par mail, et on va avoir tout un protocole où on va devoir donner les informations, date de naissance et nom de famille, tous les prénoms, et à partir de là, Elodie va faire tous les calculs.
Ah.
Voilà, tous les calculs.
On sent la scientifique là.
C'est ça. Exactement.
Elle me remet la fiche, et le jour du rendez-vous, je reçois la fiche de Elodie et je vais interpréter avec la personne en direct.
Donc vous pouvez recevoir la personne.
On peut recevoir en présentiel ou alors en ligne. Toutes nos séances sont enregistrées. On ne fait rien par écrit ou très peu pour que les personnes puissent réécouter les séances à vie.
Parce ça c'est intéressant quand même.
Une séance
ça,
à la
c'est intéressant.
Ouais, c'est très très riche, une séance en une heure voire plus, parce que voilà, Guillaume est très bavard. donc
c'est pas parce qu'il est né le 5 évidemment.
Oui, c'est un ensemble de choses. et en fait, du coup, les séances, elles sont enregistrées parce qu'il y a énormément d'informations. Nous, à titre personnel, on a eu cette espèce de frustration de se dire oh, j'ai eu plein d'infos, mais là, plus le temps passe, plus j'oublie. Alors, c'est pas grave, en fait, parce qu'on reçoit ce qu'on a à recevoir.
Bien
mais
sûr.
Pour nous, c'est quand même important que le support, il reste présent et qu'on le réécoute plus tard, parce qu'il y a des informations qu'on soit on n'était pas prêt, soit il y a plein de raisons qui peuvent faire qu'on les a pas entendues à l'instant T et qu'on va les entendre à nouveau plus tard. Donc voilà, pour nous c'était important en tout cas que la personne encore une fois reparte avec de la matière, avec quelque chose de très concret et de très palpable.
Et comment ça se passe concrètement sur le... Est-ce qu'il y a un nombre de séances en tout cas qui est entre guillemets imposé? J'imagine que non, mais il faudrait combien de séances? Vous adresser à différents publics? On parle aussi d'accompagner par exemple des entreprises, enfin des entrepreneurs. Comment ça se passe? Et puis évidemment, le nerf de la guerre, si vous le souhaitez, vous avez toute liberté de le faire ou pas, de nous indiquer aussi les tarifs, parce que c'est évidemment un élément qui parfois peut accélérer le processus, parfois l'impacter. Qu'est-ce qu'il en est de tout ça, Elodie et Guillaume? Le grimoire du phénix.
Alors déjà, il faudrait toute une vie pour vraiment se connaître. Donc désolé.
On imagine. Il n'y a
pas de nombre de séances, parce que même nous, étant formés, ayant fait plusieurs formations, et on continue toujours à apprendre et on intègre de nouveaux outils. On a fait une formation, on intègre le tarot avec la numérologie, ça donne des nuances supplémentaires. Guillaume s'est formé à la géométrie sacrée, ça vient encore apporter
Pythagore,
des...
Ça va de soi.
Voilà, ça vient encore apporter des nuances. Donc nous, on est des personnes qui creusent énormément, donc on va vraiment chercher toujours dans le détail et on en découvre toujours sur nous-mêmes au fur et à mesure. Donc c'est vraiment un travail sans fin. Une personne, elle n'est jamais linéaire, elle traverse des cycles, etc. Donc il peut y avoir un moment dans sa vie où ça se présente, où elle se dit là je vais peut-être avoir besoin de me faire accompagner, besoin de comprendre des choses, besoin d'un regard extérieur aussi, parce que même si on n'apprend rien à la personne, on n'est clairement pas objectif sur nous-mêmes. Donc ça peut être intéressant d'aller voir une personne pour justement apporter un nouveau regard. Donc le nombre de séances, le rythme, c'est très variable, ça dépend des personnes. Il y a des fois c'est du one shot, il y a des fois on a eu des personnes qui ont pris 2-3 séances d'affilée parce qu'elles en voulaient toujours plus, et puis on a des personnes qui choisissent d'être accompagnées par Guillaume dans le programme Écladion, qui est un accompagnement sur 4 mois où il y a de la numérologie. Là par contre, il y a davantage de l'énergétique aussi, puisque Guillaume est magnétiseur. On a un autre outil qui est le design humain, qui vient apporter d'autres nuances.
Il y a toutes ces sensibilités qui se rejoignent, c'est ce que disait aussi Richard un petit peu. Moi j'évoquais l'astrologie, là vous parlez du magnétisme, vous parlez tout à l'heure du tarot, donc tout ce qui est sur la cartomancie. Il y a donc cet esprit aussi de compréhension scientifique. Il y a quand même toutes ces connexions-là qui permettent en tout cas de développer.
C'est ça.
le processus de développer aussi la sensibilité humaine, parce que on l'a peut-être pas assez évoqué, mais c'est quand même le tissu humain qui vous lie, on est bien d'accord, ouais. Hein.
Exactement. Et l'intuition. L'intuition, c'est quelque chose qui est très fort pour chacun des êtres humains. Et la numérologie nous aide à nous connecter à cette intuition. Et même si c'est pas, on va pas partir dans tous les sens, c'est très factuel. Un numéro va garder sa vibration et plusieurs numéros peuvent, quand ils sont accumulés, donner une vibration globale. Et ce qui nous aide à nous comprendre à l'intérieur et à vraiment écouter notre intuition.
Ça fait alors, dans votre domaine, bon, je présume que vous n'êtes pas seul à faire ce système. Est-ce que vous avez vous-même des contacts avec des personnes un petit peu comme vous, quoi, bon, qui a un niveau de compréhension identique? Est-ce qu'il y a des échanges avec, voilà, comment vous, se passe votre vie dans ce domaine, partage avec d'autres personnes identiques, enfin identiques dans la pensée?
Justement, c'est là où elle est là la richesse, c'est qu'en se connectant avec d'autres numérologues, et on pousse aussi les gens à aller voir d'autres numérologues pour avoir d'autres messages, parce que chacun va délivrer son propre message. On est l'effet miroir, ça fait que quand on vient en séance, c'est un message qu'on va transpirer. Et on a créé un groupe de numérologues où on se regroupe et on arrive à faire des échanges. On a gardé très bon contact avec nos formateurs aussi. Et du coup, on se fait suivre aussi personnellement.
Ah oui.
Pour continuer à...
Est-ce que vous avez pensé éventuellement un jour à faire dans une salle une réunion informelle pour plusieurs personnes? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait ou que vous envisagez?
Ouais, alors des conférences, on a déjà fait. En effet, on en a déjà fait plusieurs. Et justement, on en a une autre qui est prévue au mois de juin, le 12 juin sur Marseille.
Très bien.
Au centre d'affaires le 40 à Saint-Antoine.
Donc, ah oui, le 40,
bon. Vous connaissez très bien Barbara Bosquet.
Et oui. Vous avez choisi un très, très super endroit.
Oui, tout à fait.
Et d'ailleurs, beaucoup d'entreprises qui sont installées.
Oui. On en profite, Richard, puisque Barbara Bosquet, qui est du 40, enfin, c'est elle qui nous a permis cette connexion aujourd'hui.
Ah, d'accord.
Avec Elodie et Guillaume. Donc, on la remercie et elle est toujours extrêmement enthousiaste et dynamique. Elle nous présente beaucoup de structures, d'assauts, d'entrepreneurs. Donc, on la remercie.
Ouais. Le 12 juin, à partir de 18h30, on sera présent au 40 et on fera une conférence qui, là, cette fois-ci, sera davantage orientée entrepreneur. Parce qu'on utilise aussi la numérologie pour les entrepreneurs. Moi, dans mon activité de rédactrice web, j'ai été souvent en contact de professionnels qui, étonnamment, ne savaient pas parler d'eux. Et donc, dans leur communication, c'est très compliqué parce qu'un entrepreneur qui ne sait pas parler de lui ne sait pas parler de son entreprise. Et donc, en fait, nous, bah, on amène la numérologie au sein de l'entreprise, au sein du milieu professionnel, pour que bah, l'entrepreneur puisse mieux se comprendre lui, mieux comprendre quel entrepreneur il est, quelle est la vibration de son entreprise, et du coup avoir un discours et une communication beaucoup plus authentique, et ne pas rentrer dans des schémas de communication très marketing et très formatés comme on en voit partout. Alors je ne veux pas critiquer, je ne veux pas lancer la pierre, mais on voit quand même beaucoup de choses, notamment sur les réseaux sociaux, où tout le monde a la solution miracle, mais quand on l'utilise, ça fonctionne pas forcément, parce que tout simplement, c'est pas adapté à la personne.
Vous avez raison de dire le formatage, c'est absolument absurde aujourd'hui. Quand on voit l'ensemble des CV et des gens qui disent comment il faut faire un CV et que tout est formaté, quand les chefs d'entreprise reçoivent tout ça, franchement, c'est décevant parce que c'est tout pareil. Donc, vous avez raison. Alors, on rappelle le 12 juin quand même. Vous allez donc faire votre réunion avec des chefs d'entreprise éventuellement au 40. C'est à la rue Saint-Antoine.
Oui.
Hein. D'accord. Et est-ce que il y aura une petite collation? Est-ce qu'il y aura un café? Comment va se dérouler cette prestation?
Oui, alors le 40, du coup, à partir de 18h30, ouvre ses portes à toutes les personnes qui seraient intéressées par le sujet. Et donc là, c'est le 40 qui offre l'afterwork, où les gens sont accueillis avec un apéritif dinatoire, soda.
C'est payant
de vin. Non, c'est gratuit. C'est entièrement gratuit pour tout le monde. Il y a un petit temps d'échange avant la conférence.
On a le droit de venir?
Bien sûr, si le sujet vous parle, n'hésitez pas. y a un petit temps d'échange avant la conférence. Il y a là une conférence d'à peu près 1h, 1h30 selon les échanges qu'il peut y avoir. Et puis il y a un temps de conversation et d'échange à nouveau derrière pour ceux qui veulent rester un petit peu plus tard.
Bon, jusqu'à environ 21h30. N'hésitez pas à y aller. Je crois que c'est une très belle occasion. Hein, de vous retrouver et puis d'échanger avec d'autres personnes aussi.
Et puis de susciter un peu la curiosité aussi, c'est intéressant. Juste, j'ai reçu des messages en me disant que on m'a dit, oui, c'est pas de l'astrologie, c'est peut-être plus scientifique que ce qui pourrait en paraître. Parlez-nous un petit peu aussi des tarifs si vous le souhaitez, mais je pense que c'est important pour les auditeurs qui se disent, est-ce qu'on peut y accéder, parce qu'on imagine que c'est forcément du travail, et évidemment tout travail mérite salaire, donc ce qui est bien normal.
La séance de base est à 80 €.
Ouais.
J'ai demandé à Elodie pour ouvrir les séances à beaucoup plus large. Alors ça sera pas une séance complète de numérologie, parce que 80 €, ça a quand même une valeur marchande, mais surtout de travail. Elodie passe beaucoup de temps au calcul.
C'est une somme de travail, c'est une somme de travail très importante à faire.
Après oui, ça dépend le point de vue, parce que nous aujourd'hui c'est devenu c'est un art de vivre, hein, clairement. Nous, la numérologie, on se lève numérologie, on mange numérologie, on se douche numérologie. En fait, c'est devenu même un jeu dans notre quotidien. On décrypte les personnes, on sait mettre des nombres sur les gens quand on les rencontre, quand on les entend parler. Donc oui, bien sûr que ça demande.
On a déjà été scanné, je pense.
J'ai été découvert.
Mais c'est après, on le manifeste pas toujours, mais pour nous c'est devenu quelque chose de très naturel. Ça fait partie intégrante de qui on est.
Est-ce qu'à court et à moyen terme, l'objectif, parce que j'imagine que vous êtes également épanoui dans vos métiers, est-ce que l'objectif c'est de développer uniquement la numérologie, ou c'est juste une sorte de, alors pas un complément, parce que ça voudrait dire qu'il y ait que l'aspect financier, et j'en suis convaincu que c'est pas le cas, mais est-ce qu'à moyen terme ça serait un épanouissement complet de se dire on arrête notre métier et on se consacre à ça?
Pour ma part, totalement, il y a vraiment ce côté coaching et accompagnement de la personne qui me correspond.
On ne peut pas faire ça si on n'est pas passionné. C'est pas possible, quoi. Donc à partir du moment où on est passionné, d'abord on est bien dans sa peau, bien dans sa vie, on est plus fort que les autres en fait, parce que la passion est là. Et voilà, quoi. Donc c'est ça qu'il faut réaliser. Et n'oubliez pas que quand on dit 80 € et que des gens souffrent et ont besoin d'aide, et que grâce à ça, ça va leur permettre de changer leur vie, bien souvent, franchement, c'est peu.
En fait, c'est l'investissement qu'on est prêt à mettre pour soi. En fait, c'est pas tant la valeur de notre travail, parce qu'en vrai, ça vaut pas 80 € ce qu'on propose, ça vaudrait bien plus. On souhaite quand même rester accessible, tout en payant les factures, bien sûr. Mais c'est la valeur qu'on est prêt à mettre sur soi. Et c'est pour ça que Guillaume allait aborder aussi une autre formule qu'on propose. C'est une séance de coaching, davantage que, même si on utilise nos outils habituels, on est plus sur une séance de coaching, où là, on est sur don libre. Et là, la personne a la responsabilité de
Génial.
Qu'est-ce qu'elle est prête à investir pour elle-même, en fait.
Ouais,
donc, c'est davantage accessible. Et
imaginez, elle vous donne 10 €, c'est quand même...
Eh bien, ce sera OK. C'est parce que la personne ne se met que 10 € pour elle, finalement. Ce n'est pas tant quelle valeur elle met pour notre travail. Ça, c'est notre problème à nous. C'est juste que la personne, si elle ne met que 10 €, soit elle n'est que dans cette capacité de mettre que 10 €.
Oui, après, il y a la capacité financière ou l'incapacité qui est...
Et donc... On lui permet quand même d'accéder à cet outil, à cette connaissance de soi.
Combien de temps dure la séance, Elodie, Guillaume, à peu près?
La séance classique numérologie, elle dure 1h, 1h30,
oui,
à peu près. Après, la séance découverte, on va dire, la séance sur don libre, c'est à une séance d'1 heure. On est plus sur une séance vraiment coaching, où là, on va aller...
Est-ce qu'il y a un lien, je m'interroge là-dessus, et j'en ai une autour de moi notamment, sur la kinésiologie. Est-ce qu'on peut faire des liens un petit peu avec tout ça, parce que on parle du corps, on parle de la presque du côté spirituel, que notre corps nous dit des choses. Tout à l'heure, vous avez évoqué l'aspect des cartes, du tarot, du magnétisme. Est-ce qu'il pourrait avoir un lien? C'est une question un peu bateau, mais est-ce que ça vous parle?
Alors c'est très drôle, c'est très drôle, parce qu'on a eu une séance, avec un couple. Donc moi, je fais très peu de séances numérologie en direct, parce que c'est pas ce qui m'anime. anonyme, moi, la transmission, elle passe ailleurs, par le site, par les contenus, etc. Guillaume est davantage présent en séance et en accompagnement. Et ça nous arrive que je sois présente pour les séances de couple ou pour une personne seule, mais qui veut avoir deux numérologues face à elle. Donc là, c'est intense, hein, il faut s'accrocher.
J'imagine.
C'est pas le même tarif, c'est pas le même temps, etc. Donc ça peut nous arriver. Donc on a eu une séance il n'y a pas très longtemps avec un couple et Guillaume parlait d'intuition tout à l'heure. Et parfois, on a cette espèce d'intuition, ces messages qui viennent. Et j'avais la kinésiologie qui s'est présentée et en fait, bah, j'ai conseillé à la personne qu'on a eue en séance d'aller en kinésiologie. On l'a expérimenté nous-mêmes, c'est très puissant la kinésio, c'est formidable.
Je m'en suis rendu compte là, il y a très peu de temps et autour de moi, des personnes qui sont allées en séance et je vous le répète, en règle générale, je suis plutôt distant par rapport à tout ça et je trouve que c'est puissant et je suis convaincu que ce que vous faites, il y a quelque chose où il y a du sens, où il y a de l'écho et où il y a un tremplin positif. Donc je pense que c'est important de développer ces sensibilités. Après, libre à chacun de d'aimer, pas aimer, apprécier, pas apprécier, content, pas content, mais au moins en tout cas de s'y rapprocher.
Moi,
il nous reste trois petites minutes, Richard. 4 minutes même, on prolonge de 4 minutes.
Quand
avec
la personne
invités.
A un questionnement, un doute, bon, moi j'ai des personnes autour de moi dont c'est le cas, hein, comme tout un chacun, eh bien, il faut y aller, comme vous disiez, bon, combien veut mettre pour changer sa vie, etc., c'est un problème très personnel, et en fait, c'est très peu... pour avoir une vision globale de la chose. Après, on peut s'en faire l'idée qu'on veut, mais je pense qu'il faut tenter, il faut y aller. Si vous voulez, dans un premier temps, aller le 12 juin au 40, vous allez avoir une réunion d'information générale. Ça peut intéresser des chefs d'entreprise et on sait qu'aujourd'hui, ils ont des questionnements ils sont trop axés sur leur travail et pas assez sur leur vie personnelle. Et ça, comme vous disiez, ça ne veut pas parler d'eux. Bien souvent, ils parlent que de travail. Hein. Moi, j'ai un cas d'école où j'essaie de faire transformer ça. C'est très difficile pour moi de le faire. Et la personne part toujours travail, travail, travail. Ben, ça va, c'est pas ça la vie. Hein.
Oui, puis on est conditionné comme ça. Finalement, quand on demande à quelqu'un qu'est-ce que tu fais dans la vie qui es-tu, présente-toi, la personne, elle se présente par son métier. Alors que on n'est pas que un métier. Enfin, nous, on n'est pas que numérologue. On est tellement plus que ça. Et aujourd'hui, on en a pris pleinement conscience. Et même nous, se présenter aujourd'hui, parfois, c'est compliqué. Donc, selon l'environnement dans lequel on est, selon les personnes qu'on a, bah, ça peut varier. En fait, on se présentera jamais de la même manière. Et c'est très rare qu'on se présente par notre métier aujourd'hui.
Oui, clairement. Clairement, parce que comme on accumule plusieurs métiers. Ça fait qu'on vit de notre passion, parce que je suis passionné par ce premier métier qui est la création de piscine et l'aménagement extérieur et tout ça. Et on trouve des liens. Et ce qui est bien avec la numérologie, c'est remettre le lien au centre, comme les molécules qu'on a à l'intérieur de notre corps. Et quand on comprend toutes ces cellules qui vivent à l'intérieur, ben, on comprend la numérologie.
Et puis aujourd'hui, on a des facilités à changer de vie beaucoup plus qu'avant. Et puis la vie fait que, bon, on peut faire des choses différentes, etc. Voilà. Et c'est bien d'aider les... Alors, je ne sais pas si c'est 100% des personnes qui en ont besoin aujourd'hui. Peut-être elles en auront besoin demain. Hein. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui, plutôt que d'aller voir un psy ou etc., feraient mieux d'aller voir... d'autres personnes et d'autres horizons.
Après, il faut aller vers ce qui nous appelle, il faut aller vers ce vers quoi on se sent attiré. Si c'est la psychologie dite classique, c'est complètement OK. Enfin,
c'est
moi,
vrai
j'ai,
que vous avez fait
j'ai
ça,
un parcours en psycho, donc je vais pas. Mais non, mais en fait, il n'y a pas une vérité, en fait. Mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas une vérité. S'il y a des personnes qui se sentent davantage attirées vers des pratiques plus traditionnalistes, avec des méga guillemets, c'est complètement OK. Et s'il y a des personnes qui sont davantage dans quelque chose de plus spirituel et de plus ésotérique, c'est complètement OK. Que ce soit la numérologie, l'astrologie, le design humain, le tarot, peu importe, la kinésiologie, il y a plein de pratiques différentes. Il faut juste faire appel à son discernement. Moi, c'est la chose que j'aime rappeler, c'est d'écouter sa propre vérité et d'écouter ce qui vibre en soi. Et quand on s'écoute soi, déjà, les choses se passent beaucoup mieux.
Absolument. Je suis d'accord avec vous. C'est ce qui m'est arrivé toute ma vie. Donc, je comprends et je dis à beaucoup de personnes, pensez justement à vous, etc. Et puis aujourd'hui, si vous pensez blanc, demain peut-être gris ou peu importe, ça n'a pas d'importance. Mais suivez-vous votre façon de voir, quoi. Bon, c'est très important. Bon, moi je vous dis bravo de tous les efforts que vous faites. Hein.
Merci.
J'essaierai de venir le 12 quand même.
Avec plaisir. Hein,
si je peux, parce que bon, je suis intéressé par ce que vous faites, à vrai dire, c'est très riche. Et
ouais, puis on aime rendre la numérologie concrète, donc le 12 ce sera pas palpable, donc le 12 ce sera pas juste asseyez-vous et écoutez-nous, on va vous faire expérimenter la numérologie dans le cadre de l'entrepreneuriat, mais en tout cas vous repartirez pas les mains vides.
Il y a un cadeau.
Ah ben on va pas en dire plus.
Le cadeau, ça sera de découvrir qui quelle vibration, peut-être le prénom ou peut-être le nom ou ce que l'on veut, mais en tout cas je pense que le prénom c'est important. C'est quand on rentre dans une pièce, quand on dit notre prénom, c'est la première énergie qu'on va mettre dans la pièce.
D'accord.
Et la comprendre, c'est avoir une conscience sur cette
Alors,
énergie.
On va pas être loin de la fin. Vous voulez bien nous rappeler les endroits où on peut vous joindre sur le net, s'il vous plaît?
Oui, alors il y a sur Instagram, le Grimoire du Phénix. Il y a aussi sur Internet, Facebook aussi.
Oui, Instagram, Facebook, c'est Grimoire du Phénix, c'est partout pareil. Et le site internet, www.grimoiredufénix.fr. Et pour la partie entreprise, on est sur Com Unique Phénix, mais en tout cas, en allant sur le site, après, tout est...
Vous avez des contacts avec des trucs d'état d'entreprise, enfin, des trucs locaux, vous savez, de ceux qui s'occupent des entreprises sur Marseille.
On va devoir conclure.
On est parti, là, on peut rester, nous.
Non, mais Richard, je suis sûr qu'il a vu le fil conducteur, il a vu l'horaire, on a même dépassé, vous avez vu, de quelques minutes. On a nos invités qui sont là pour la belle fête de mai. Donc, on vous laisse le dernier mot, s'il vous plaît, à chacun pour conclure ce beau moment d'émission de radio. Voilà, pour ceux qui ignoraient un petit peu ce que c'était la numérologie. En tout cas, c'était un vrai plaisir de vous avoir. Je vous laisse les dernières secondes à vous, Elodie, et à vous, Guillaume, sur les ondes du 4.4 pour nous parler de la numérologie du Grimoire du Phénix.
Et ben, pour toutes les personnes qui souhaiteraient en savoir un petit peu plus, n'hésitez vraiment pas à nous contacter. C'est sans engagement. Il y a vraiment, on ne vous vendra pas une séance obligatoire. On est hyper disponible. On a même des espaces communautaires sur lesquels on peut échanger gratuitement, donc vraiment n'hésitez pas à venir nous rencontrer.
Ouais, et
génial.
Pour
Guillaume,
le dernier mot,
un dernier mot
c'est centrez-vous sur vous.
Centrez-vous sur vous, ça veut tout dire, et ça permet évidemment de se dire que c'est l'essentiel, c'est justement la personne, la dimension humaine, et ça vous en êtes extrêmement attaché. On peut rappeler le 12 juin en quelques secondes, et notamment aussi le site où on peut vous retrouver, Elodie et Guillaume.
Oui, tout à fait, www.grimoiredufénix.fr.
Parfait.
T'as pas écouté parce que ça avait été dit.
Mais tout à fait, mais c'est toujours bien de le rappeler. Et le 12 juin, vous nous rappelez le lieu, s'il
le
vous plaît.
40 avenue Saint-Antoine à Marseille.
À partir de
18h30.
Merci Elodie, merci Guillaume d'avoir été avec nous sur les ondes de Radio LR. C'était un vrai plaisir de vous recevoir. C'est évidemment une première émission ensemble, mais pas une dernière. Donc on vous retrouvera peut-être l'année prochaine, peut-être dans quelques mois, pour nous parler de ce joli cheminement que vous avez emprunté depuis maintenant quelques petites années. Merci bien.
Merci.
Au plaisir. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Vianney, beau papa.
J'avais pas prévu d'un jour adopter mon enfant, j'ai dû surtout m'adapter. Y a pas que les gènes qui font les familles, des humains qui s'aiment suffisent. Et si l'inverse nous touche, toi et moi, on la traverse à deux, à trois. Et si l'inverse nous touche, toi et moi, prends ma main de beau papa. Je t'attendais pas, je te laisserai pas. Même sans le même sang, on s'aimera. Non, je ne vois
volerai jamais la place du premier qui t'a dit je t'aime. Sur ton visage, on voit son visage et c'est ainsi que tu es belle. De vous à moi, c'est moi j'avoue qui me suis invité dans sa villa, dans la vie où elle n'a rien demandé. Et si l'averse nous touche toi et moi, on la traverse à deux, à trois. Et si l'averse nous touche toi et moi, prends ma main. Adopté en vérité nue, c'est toi qui l'as fait. Y a pas que les gènes qui font les familles du moment qu'on s'aime. Et si l'averse nous touche toi et moi, on la traverse à deux, à trois. Et si l'averse nous touche toi et moi, prends ma main, dis branle-la.
Ça fait rien, c'est lui.
Radio Galère 88.4, nous reprenons le cours de notre émission. C'était donc Beau Papa, Vianney sur les ondes de Radio Galère. On rappelle qu'on est audible sur le www.radiogalère.org. Évidemment, le 88.4 de la bande FM, pour ceux qui possèdent la RNT, c'est le canal 8C. 8h50 et ce jusqu'à 9h25. Nous avons le plaisir de recevoir et de faire l'éclairage
pour éponger ta
peine sur la 25e édition de la belle fête de mai qui aura lieu le 23, 24 et 25 mai. Évidemment, Radio Galère est partenaire, donc on va évoquer un petit peu toute la trame. On a le plaisir de recevoir ce matin Christophe Rodelsperger qui est avec nous, directeur Maison pour tous, Léo Lagrange, seul volet animation. Il est membre aussi du Copil de la belle fête de mai. Il est accompagné de Judith Pobrezo qui est en service civique aux Têtes de l'Art et qui est membre du comité de pilotage. Bonjour Judith.
Bonjour.
Et bonjour Christophe. Voilà, Christophe, qu'on connaît évidemment bien sur les ondes de Radio Galère. On est ravis de t'accueillir, évidemment. Mon cher Christophe, t'avais pas bien entendu sur le premier son. Donc voilà, bonjour à toi Christophe.
Eh ben bonjour à tout le monde.
Voilà, on est ravis de t'accueillir. On va donc évoquer avec toi pendant près de 35 minutes, avec toi et évidemment avec Judith, et de faire un éclairage spécial sur la belle fête de mai. Juste avant ça, un petit topo sur vos structures respectives. Christophe, on le connaît depuis des années. Je pense que ça fait au moins 5-6 ans facilement qu'on développe cette belle fête de mai, mais pas que, puisque tu es même venu pour faire des éclairages sur la maison pour tous, pour évoquer aussi parfois les projets avec les jeunes, les vacances, il y a beaucoup de choses qui se trament. Tu étais pendant des années affecté à la maison pour tous de la belle de mai, tu es désormais sur Saint-Mauron. D'ailleurs, il y a une fête, la fête de Saint-Mauron fin juillet, et tu viendras nous en parler.
Tout à fait.
Voilà, et ça c'est important parce qu'on sera ravis de t'accueillir. Parle-nous un petit peu de Léon Lagrange, de ta fonction et de ton univers. Christophe.
Oui, bah tout à fait. Léo Lagrange, donc c'est une fédération d'éducation populaire qui se décline dans plusieurs associations et notamment Léo Lagrange Animation qui gère plusieurs structures sociales sur Marseille et sur Vitrolles, dont celle de la Belle de Mai qui fait partie du comité de pilotage de cette belle fête de mai, celle de Saint-Mauron, je suis aujourd'hui, et puis après on a d'autres structures sur les quartiers nord, du côté des Égalades, Saint-Louis Campagne-l'Évêque, de Calice Lagranière et puis du Panier. Donc voilà, c'est une structure d'éducation populaire qui touche beaucoup de populations, et l'idée c'est de travailler avec les habitants. Voilà.
Alors, puisque tu as parlé des égalades, on va rappeler quand même qu'il y a la cascade des égalades pour tous les Marseillais qui ne connaissent pas, il faut y aller.
Je crois que c'est tous les premiers dimanches du mois, c'est ouvert, je crois, c'est un truc comme ça. Ouais.
Ouais, alors, je le dis parce que la cascade des égalades, ça vaut le coup d'être vu, et c'est bizarre, peu de personnes y verront.
Tout à fait.
Tu fais bien de faire des connexions, évidemment. Marseille, le patrimoine de Marseille est bien riche et large. Depuis quelque temps, tu es donc, depuis le mois de janvier, sur Saint-Mauran. Donc, j'ai envie de dire un autre univers, mais au final, peut-être aussi proche de, parce que ça reste le troisième arrondissement, mais peut-être différent. Ça, c'est juste la curiosité qui nous habite et ce qu'on veut évoquer avec toi.
Ouais, le travail est le même, le rôle d'un centre social est le même. Après, effectivement, un centre social, il est connecté à son territoire. Le territoire de Saint-Mauran, Félix Piat, la cité Bellevue, pas le même que celui de la Belle de Mai, donc avec des enjeux, des problématiques, des forces différentes sur le territoire. Donc voilà, le rôle d'un centre social, c'est de s'adapter, donc le rôle de son directeur aussi, donc je m'adapte. Effectivement, c'est tout le sens du travail d'un centre social, et notamment de la capacité de la Fédération Léo Lagrange de s'adapter à ces situations et de travailler avec le public, non pas pour le public, mais avec le public, et c'est le sens qui est donné aussi sur cette belle fête de mai.
Mais la transition, et on rappelle que la valeur les deux partout, dans tous les quartiers, dans toutes les régions, et qu'il y a des valeurs et des talents, et Christophe, c'est très bien, les découvre, travaille avec eux et fait un travail formidable.
Parce
que
ces
talents, ils existent et ils demandent qu'à éclore.
Exactement.
Hein, on est d'accord,
Judith.
Merci.
Judith qui va nous parler, elle
est l'exemple type.
Judith qui va nous parler des têtes de l'art, puisqu'ensuite on va vraiment axer sur la programmation. Judith, voilà, tu es donc en service civique aux têtes de l'art, et tu es membre du comité de pilotage, évidemment, sur la belle fête de mai. Donc il y a cette connexion aussi avec différents partenaires, différents assos. Les têtes de l'art ce n'est pas la première fois, évidemment, qu'ils sont partenaires de la belle fête de mai. Parlons un petit peu de cet univers-là et de ta fonction, et qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à développer cette com auprès de la belle fête de mai.
Alors, donc là, actuellement, je suis en service civique aux têtes de l'art, et je suis donc dans le pôle art participatif, et je m'occupe principalement de la médiation de proximité. Donc, en gros, ça touche toutes les activités d'art participatif dans le 3e arrondissement. En fait, là, le principe de mes activités dernièrement se concentre sur la belle fête de mai. Et je m'occupe principalement de la coordination, un peu de la communication, de la programmation, tout ça. Ce qui est bien, c'est qu'on retrouve encore ce côté participatif, que ce soit dans notre association, mais aussi dans l'organisation du comité de pilotage.
Et ça, c'est important, c'est précieux en tout cas, sur la dimension sociale, la dimension du partage, des échanges, que les habitants aussi soient concernés par tout ça. C'est certainement un aspect important de cette organisation.
Alors, est-ce que c'est la première fois que tu fais ça pour la fête?
Ah oui, c'est la première fois, parce que ça fait 2 mois que je suis arrivée à Marseille, donc c'est tout nouveau pour moi, que ce soit la belle fête de mai, le 3e arrondissement, ce quartier-là, et c'est hyper enrichissant, parce qu'en fait je découvre tout un monde et tout ce panel de structures culturelles, associatives qui sont très très riches. Et là, le fait de travailler dans la belle fête de mai, ça me plonge directement dedans.
Génial. On rappelle quand même que c'est la 25e édition de la fête, et
on
que plus ça va et plus elle s'améliore, et là, on va après parler du programme, parce qu'il est tellement gros que il faut l'attaquer. Mais vraiment,
on
bravo,
y va,
hein.
Tout à fait, bravo. Richard. Belle fête de mai, tu l'as si bien évoqué, 25e édition. Un quartier dans ses rues. En tout cas, il est annoncé, et ça a beaucoup de sens, hein, parce que ça va de soi. 23, 24 et 25 mai, ça démarre dès le vendredi jusqu'au dimanche, toute la journée. Parle-nous du programme, parle-nous de, j'allais dire, la sensibilité qui va se dégager, la trame, les thèmes, il y a beaucoup de choses à dire. On a près d'une demi-heure, donc on va en profiter.
Ouais, tout à fait. Peut-être juste au préalable de rentrer vraiment dans la programmation, c'est de rappeler qu'effectivement, Judith et moi, aujourd'hui, on représente les Têtes de l'Art, le Centre Social Belle de Mai, Léo Lagrange, mais on représente aussi surtout un COPIL, un comité de pilotage. On a 4 associations qui est dans le comité de pilotage, donc les Têtes de l'Art et le Centre Social, mais on a aussi la Friche Belle de Mai, depuis l'an dernier, et le CIQ Belle de Mai. Et en fait, c'est le sens qui est donné à pourquoi cette fête, elle perdure depuis 25 éditions.
Elle perturbe un peu le quartier.
Oui, on fait bouger les lignes, c'est important.
C'est ça.
Mais pour le coup, pourquoi elle fonctionne, c'est parce qu'il y a ce COPIL qui prend le relais, qui travaille en concertation, qui travaille autour de tout cet aspect logistique. Et après, derrière, on a plus de 50 associations qui travaillent sur la programmation.
Voilà,
on comptait ce matin avec Judith, on a 52, je crois, on a référencé 52 associations qui font la programmation après. Et le rôle du COPIL, c'est de faire ce grand puzzle. On a plein de petites pièces que les associations nous proposent, et l'idée, c'est de mettre en synergie tout ça, et qui fait une programmation large, qui fait une programmation assez diverse et variée, à travers de la culture, à travers du sport, à travers des concerts, à travers des repas. Et en fait, on le dit souvent, nous, et on le rappelle, le rôle du COPIL, c'est pas de sélectionner les meilleurs projets, c'est juste de mettre en synergie les projets. On refuse jamais un projet, alors sauf si c'est infaisable, bien naturellement, on le refuse pas, on explique comment on peut le adapter, comment on peut faire tout ça. Mais le rôle du COPIL, c'est vraiment de mettre en synergie tous ces projets pour faire quelque chose de cohérent et d'assez large. Donc voilà, c'est important de le rappeler. Effectivement, on est deux aujourd'hui à représenter la belle fête de mai, deux représenter le COPIL, mais il y a surtout une cinquantaine d'associations, donc ça fait plus de 100 à 125 personnes qui s'investissent sur cette organisation au quotidien, quoi.
Ouais, c'est énorme.
Alors moi, je précise quand même que ce projet est fabuleux dans le sens où il est bien structuré. D'abord, vous trouvez une première page où vous avez tous les endroits et tous les sites, etc. Après, vous avez un plan qui vous permet, pour ceux qui ne connaissent pas, de vous situer. Donc déjà, ça démarre très bien.
Ben ça, c'est la programmation qui va sortir, qui est encore dans notre ordinateur. Hein. On l'a reçue cette nuit, on a la graphiste qui l'a travaillée cette nuit, on l'a regardée ce matin, on regarde les derniers détails. Effectivement, très vite, on va essayer de sortir la programmation. Dans un premier temps, elle va sortir en ligne, donc sur le compte Facebook de la Belle Fête de Mai et sur notre site internet. Et après, on les aura en papier. Donc, mais effectivement, on essaye d'être le plus clair possible. L'idée, c'est que chacun puisse retrouver la bonne information au bon endroit.
Voilà.
Et du coup, cette année, on en parlait ce matin avec Judith, en fait, il y a énormément d'associations et de lieux qui ouvrent leurs portes. Et
plus que d'habitude.
Ouais, surtout sur le dimanche, mais Judith.
Oui, c'est ça. Sur le dimanche, en fait, il y a beaucoup plus de personnes qui sont présentes et qui ouvrent leurs portes. Et c'est aussi le but de la Belle Fête de Mai. C'est un espace, c'est de donner en fait la place dans l'espace public aux structures. Mais il y a aussi
un quartier dans ces rues.
Voilà. Mais il y a aussi le second temps où les structures montrent aussi leurs lieux, montrent ce qu'elles font un peu plus en particulier, se présentent et ça met aussi en valeur tout le quartier.
Si on doit résumer, évidemment, c'est extrêmement réducteur ce que je vais dire, mais on sait qu'il y a une âme, en tout cas, dans cette belle fête de mai. On parle de 25 ans, 25e édition. Est-ce que justement ce mélange, cet échange, cette richesse, ces connexions, ça fait vraiment la force du quartier? Et tu le dis si bien, c'est avec les habitants, pour les habitants, par les habitants, mais pas que, parce que on peut être du Merlan, d'Aix, si vous avez envie de venir à la belle fête de mai, ce n'est pas réservé que pour les gens du 3e arrondissement, évidemment, hein, Christophe.
Non, au contraire, et c'est le sens de la belle fête de mai, c'est que ce soit un lieu, un événement rassembleur, qu'on ait la majorité, qu'on ait tout le quartier qui vienne, quelles que soient ses orientations, que ce soit politique, quelles que soient ses origines, la religion. Enfin, nous, en fait, on est là pour travailler, mais pour faire la fête tous ensemble. Donc, les associations, on est là pour travailler tous ensemble, mais les gens sont là pour que ce soit rassembleur. Donc, l'idée, c'est de mettre en avant le lien social et de valoriser la richesse du quartier. Richard l'évoquait tout à l'heure. Nous, ce qu'on veut, c'est valoriser la richesse du quartier. En fait, la belle fête de mai, c'est un temps festif dans l'année, mais il faut savoir que les associations préparent la belle fête de mai tout au long de l'année. La première réunion de préparation, elle a fait au mois de septembre, où on dit aux assos, c'est parti, hein, lancez vos activités, rappelez-vous qu'à telle date, il y aura la belle fête de mai. L'idée, c'est de valoriser à ce moment-là. Mais c'est pas un événement et puis après il n'y a plus rien. C'est l'idée, c'est de valoriser au mois de mai, de valoriser ce qui a été fait tout au long de la saison par les associations.
Ah oui, Denis, il y a quand même 16 sites à peu près, hein, donc je vois pas tout, on peut en citer quelques-uns.
Oui, on peut rappeler les lieux peut-être de la belle fête de mai. En effet, Richard, tu fais bien de l'évoquer, oui.
Oui, bah, dans les principaux lieux, déjà, les plus importants, c'est Place Cafaud et Place Cana, évidemment.
Ils sont soulignés d'ailleurs.
Voilà, c'est les plus importants où tout va se passer. Mais on va aussi retrouver les grandes tables, la cinéfabrique, le couvent, l'embobineuse, l'idéaliste. Enfin, vraiment beaucoup de lieux emblématiques du quartier.
Et un nouveau venu chez vous, c'est Maloca. Qui remplace Rouge Belle de Mai et qui démarre dans des activités sympathiques pour le quartier.
Et qui fera donc la fermeture de la fête, Maloca. Après la fête, ce sera au mois de juin.
Mais ce sera du flamenco, non ?
C'est l'after de la belle fête de mai.
Parce qu'en fait, on est d'accord, c'est ce que je voulais indiquer, c'est que Maloca n'intervient pas sur la belle fête de mai. Pas sur les trois jours, il intervient sur une sorte de d'after.
Voilà, mais ils ont tenu, je crois, participer à l'ensemble de la fête.
Oui, c'est ça. Ils ont tenu, donc ça sera le 1er juin de 17 à 20 heures. Maloca sera présent et en gros, il y aura un spectacle de flamenco et ça sera suivi d'un bal sévillan.
Génial.
Alors si la terre tremble, c'est pas grave, ce sont les castagnettes. Mais pardon.
Ce n'est que ça.
un mot, Christophe, aussi sur les temps forts. On peut l'évoquer. Alors juste peut-être avant ça, hier il y avait, on peut faire un petit topo. Il y avait donc un plateau TV en direct du local des South Winners qui a quelques centaines de mètres des locaux de la friche de la Belle de Mai. D'ailleurs, je trouve ça quand même presque incontournable parce que tu me dis que je crois que c'est que la deuxième année que la friche Belle de Mai intervient.
Sur le Copil, effectivement, on a été chercher la friche Belle de Mai pour le Copil. L'idée, c'est qu'il faut qu'on puisse avoir des structures qui puissent avoir les épaules.
C'est un élément fort quand même du 3e arrondissement.
Exactement, et qui puissent avoir les épaules de coordonner tout ça. Et il était important de pouvoir intégrer la friche. La friche a vraiment envie de s'ouvrir sur le quartier, s'ouvrir de plus en plus sur le quartier. Et du coup, il est incontournable que la friche puisse intégrer le Copil. Donc, la friche intervenait sur la programmation.
Oui,
là, maintenant, la friche est vraiment dans l'organisation du Copil.
Mais sur le Copil. Et juste pour évoquer, hier, il y avait donc un plateau TV en direct du local des South Winners. Alors, c'était en direct sur YouTube. Il y avait une trentaine, quarantaine de personnes qui étaient présentes. C'était quoi un peu l'idée de nous évoquer, de préparer, voilà, on est à J-25, un peu moins de la fête. Parle-nous un petit peu de ce sorte de petit compte rendu, parce que ça fait partie aussi des temps qui vont pouvoir permettre de développer un peu l'enthousiasme, l'énergie.
Les Winners, en fait, ils ont participé sur certaines éditions, là sur les 25 éditions, ils ont participé à quelques éditions, et nous, c'était important de pouvoir... c'est quand même une structure qui est très implantée sur le quartier.
On rappelle, pour ceux qui ignorent, South Winners, groupe de supporters de l'Olympique de Marseille, évidemment.
Un des plus gros groupes de supporters de
depuis
France.
Depuis 1984,
même,
si je ne dis pas de bêtises.
Non, 87.
À 87, tu as raison.
87, c'est ça.
84, c'est ma date de naissance. Tu vois, j'ai fait un.
C'est les ultras 84.
Bien joué, il est magnifique, il est au top.
Non, mais voilà, tout à fait. Non, mais c'était important. Ils sont très implantés sur le territoire. Ils sont très nombreux. Ils font beaucoup d'actions sociales. Et donc, c'était important de pouvoir leur permettre, mais qui souhaitent vouloir réinvestir la belle fête de mai. Et donc, du coup, ils nous ont accueillis hier. C'était notre réunion plénière avec les associations. Et ils nous ont accueillis hier pour faire une présentation de la programmation. Donc, c'était sous une forme animée, parce que nous, l'idée, c'est vraiment, on reste des animateurs. Donc, c'est le studio, les Têtes de l'Art ont un plateau de télé participatif qu'ils ont développé depuis le début de l'année 2025. Et l'idée, c'était de délocaliser le studio. Comme fait Radio Galère sur la belle fête de mai, là, c'est les Têtes de l'Art qui ont délocalisé leur studio pour faire une émission de télé participative chez les Winners pour présenter la programmation. Donc, on avait une quarantaine de personnes. L'émission sera en ligne, a été en direct hier, elle sera en ligne après sur YouTube, sur le compte de la belle fête de mai. Mais voilà, c'est une manière différente de faire, on va dire, une conférence de presse, de présenter aussi, on avait quelques journalistes, de pouvoir présenter la belle fête de mai d'une manière animée.
Et ça, c'est intéressant. On revient un petit peu sur les temps forts, les différents ateliers, les lieux, on les a évoqués, mais en tout cas, les connexions qui gravitent autour de tout ça. Je m'adresse à la fois à Judith, qui représente les Têtes de l'Art, et à Christophe, qui représente Léo Lagrange, et donc le fameux comité de pilotage et le Copil. Parlez-nous un petit peu de ces temps forts, parce que il y en a, et il faudra pas les louper.
Ah oui, surtout ne pas les louper. Alors, c'est en trois temps. Le vendredi soir, c'est le début de la belle fête de mai. Et ça va commencer, le vendredi soir est concentré sur les concerts. Il y aura donc l'école maternelle qui va faire une chorale dans la paroisse. Ensuite, ça va vraiment se décaler sur Place Cafo. Et là, il va y avoir encore d'autres concerts. Donc, une fanfête, là, organisée par l'école maternelle Cadena et en collaboration avec le Festival Jazz des Cinq Continents. Donc, c'est une
qu'on connaît très bien sur les ondes de Galère et qu'on a déjà couvert par le passé, qui s'effectue aussi au Palais Longchamp.
Exactement. Et il va y avoir une pause un peu entre les deux et ensuite les gros concerts entre guillemets vont commencer. On va retrouver un premier groupe qui s'appelle Las Patas Arribas. Donc là c'est plutôt de la musique d'Amérique latine. Ensuite il y aura le groupe Alambic où là c'est plutôt de la musique festive latine. Et à la fin on retrouve Bakir qui est plutôt de la musique électro avec certaines influences de musique du Maghreb. Et pendant tout ce temps-là, évidemment, il y aura aussi un temps pour manger. Et là, c'est les collectifs d'habitants et d'habitantes qui vont proposer plusieurs repas. Donc, ça va être évidemment des repas à prix solidaire. Et aussi, là, c'est aussi un autre moyen de mettre en avant les habitants et les habitantes du quartier parce que c'est que des collectifs d'ici. Donc, mot à mot, collectif Mira, collectif On le paie pour nous ou Tiwizi.
Oui, ça s'est fait d'ailleurs plusieurs fois dans d'autres lieux. Et il faut dire que la variété des cuisines est bien entendu de chaque individu, hein, parce que ce sont des parties.
C'est un moment fort, la restauration. Hein. Faut pas oublier la restauration, cher Richard. Tu as bien raison.
Oui, d'autant plus que y a des plats qu'on mangera du le par ailleurs, hein, parce que c'est des plats et des façons personnelles de tout un chacun. Et c'est, comme dit, à des prix solidaires en plus. Donc allez-y, goûtez, régalez-vous, quoi. Ça fait partie de quelque chose de bien qui s'intègre très bien dans la fête.
Le principe de la fête, c'est que l'ensemble de la fête est gratuite. Il y a juste les repas du vendredi soir qui sont payants, mais à prix solidaire. Quand on dit prix solidaire, c'est à moins de 5 €, simplement parce que ces collectifs, ils achètent les matières premières. Il faut juste qu'ils rentrent dans leurs frais. Donc l'idée de le mettre à un prix solidaire, c'est de rentrer dans les frais. Mais voilà. Sinon, tout le reste de la fête est vraiment gratuite.
Voilà, donc bravo.
Oui.
On dit bravo aux habitants et aux parties. Et venez tous participer.
Exactement, tout le monde est bienvenu, même si vous n'êtes pas du quartier de la Belle de Mai. Au contraire, c'est aussi un bon moyen.
Et ça va danser quand ça va y avoir des danses latines ou pas?
Ah, bien sûr que ça va danser, on espère. Bon, il faut que tout le monde vienne, que tout le monde danse et que c'est le but aussi de cette fête, c'est de s'amuser, de profiter. Et voilà. Et le samedi aussi, c'est, on va dire, la grosse journée. Journée de la belle fête de mai. Ça va commencer à partir de 15 h et là on va retrouver énormément d'activités. En fait, toutes les structures viennent sur la place Cadena pour animer des ateliers. Il y a des ateliers qui sont un peu plus axés enfants, d'autres jeunesse. Après, il y a des ateliers tout public. Mais par exemple, on va retrouver le fameux théâtre Massalia où vous allez pouvoir discuter avec eux de théâtre, de tout ça. Il y aura aussi un atelier skateboard avec Board Spirit, le collectif des quartiers.
On rappelle que l'Afrique est quand même spécialisée dans le skateboard. Hein. Qu'il y a pas mal de professeurs de valeur qui enseignent à des jeunes enfants.
Mais c'est eux qui seront sur la place Cadena ce jour.
Absolument,
ils sont sur la place Cadena ce jour-là.
C'est normal. Hein,
Bien sûr. Il y aura aussi la Cinéfabrique et le but, c'est de proposer en fait des ateliers pas que culturels ou pas que musique ou pas que sport, qu'il y ait cette diversité là et que tout le monde puisse un peu trouver son compte. Là aussi, il y a des collectifs, il y a des gens qui sont un peu plus amateurs, d'autres qui sont là depuis de nombreuses années, et en fait on met tout le monde sur le même sur la même place, sur le même piédestal, et c'est aussi ça la richesse de la belle fête de mai.
Et la richesse, elle veut bien dire ce qu'elle veut bien dire, c'est que on parle de richesse humaine, on parle de richesse de partage. Souvent, tu sais, on a ces clichés. J'évite de les dire, mais ils en font partie. Oui, le quartier du 3e arrondissement est un des quartiers les plus précaires, les plus pauvres, certes. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont faites. Il y a du talent, faut pas l'oublier. En effet, la précarité. En effet, il y a parfois des éléments qu'on pourrait en tout cas rectifier, qu'on pourrait améliorer, mais il n'en demeure pas moins que ce sont des quartiers qui vivent, ce sont des quartiers où il y a de l'expression, où il y a de la chaleur humaine, où il y a de la proximité, de la cohésion, et ça vous le caractérisez bien avec la belle fête de mai.
Et de la création.
De la création aussi. J'en parlais avec les invités précédents, enfin les invités qui vont vous succéder, qui n'ont rien à voir. On parlait de Femmes Solidaires, qui est un salon du livre qui s'appelle Salon Délivré. Et puis elles sont de Saint-Barnabé, par exemple, et de la Fourragère. Et je disais, mais évidemment qu'on connaît la belle fête de mai. Voilà, ça traverse tout ça et c'est important de le rappeler. 9h14 sur les ondes de Radio Galère. Il nous reste 10 minutes pour boucler et poursuivre sur ces grands temps forts. Christophe, Judith, n'hésitez pas en tout cas de développer tous les thèmes qu'on aurait pu occulter parce qu'on aurait on pourrait faire 4 heures.
C'est ça, la programmation est un peu grande, mais bah, oui. Tout à l'heure on parlait de nourriture, on n'oublie pas ce point là les collectifs vont revenir dans l'après-midi vers 16h30, donc ils vont proposer un goûter là encore à prix solidaire, et le soir vers 18h il y a la Batoukada Mouleketou qui va partir place Cadena pour...
Attendez, vous parlez de
Mouleketou. C'est un groupe de percussion.
Batoukada.
Oui, c'est ça.
C'est de la Batoukada.
Oui, exactement. Oui, oui, je l'ai dit tout.
Voilà, il faut expliquer.
C'est la Batoukada.
Richard adore ça.
La Batoukada. La Batoukada, vous avez des personnes qui sont avec des caisses claires, des
exactement,
tambours, etc.
Oui.
Qui passe et qui défile un petit peu, essentiellement peut-être comme au Brésil, qui est initiateur de ça, et ça fout une ambiance de folie.
En fait, c'est un incontournable de la belle fête de mai. Mouleketou, en général, ils font le lancement de la belle fête de mai. Cette année, en fait, comme on est entre la place Cafou et la place Cadena, ils vont faire le relais entre la place Cadena et la place Cafou le samedi.
Alors, à titre indicatif, moi j'assiste à des soirées de Batoukada dans des salles fermées, je prends des boules quiesse. Ah. Parce que sinon, je t'aime pas. Voilà. Et ça fait un bruit d'enfer et c'est très bien.
C'est rassembleur.
C'est très rassembleur.
C'est rassembleur. Et du coup, là, c'est aussi le but de la Batoukada, c'est que c'est en mouvement et que souvent on avance dans les rues, tout ça. Et on va retrouver ça parce que là, ils vont partir place Cafou pour aller place Cadena. Et ça sera le deuxième temps de la journée du samedi où on passera à tous les concerts qui seront proposés. Tropical Raclette, Métissea et pour finir avec Didier La Rafale qui là sera un truc un peu plus électro, donc ça va être sympa. Et pendant ce temps là aussi il va y avoir un repas cette fois-ci gratuit, par contre, donc il y aura deux propositions, une proposition végétarienne par En Chantier, et ensuite il y a une grillade qui est proposée par les South Swingers.
Génial.
Donc, ils sont encore
partenaires. Ils savent faire
et on remercie aussi la mairie du deuxième et du troisième qui nous offre ce repas.
Oui,
si ça se passe sur la place Cadena aussi.
Place Cafou.
Place Cafou.
D'accord.
Place Cafou.
Un petit topo avec Christophe sur les différents partenaires. On poursuit évidemment avec Judith. Et puis on évoquera, parce que c'est toujours un temps qui est bien développé, même si on l'a peut-être dit en pointillé tout à l'heure, c'est le temps en tout cas, parents-enfants et les écoles qui sont toujours concernées, puisque je sais que c'était l'année dernière, dès le vendredi après-midi, tu me dis si j'ai des bêtises, il y avait un temps qui était fait pour les écoles, d'évoquer aussi qu'on sensibilise un peu les jeunes et qu'on les intéresse aussi à la belle fête de mai. C'est pas uniquement pour les adultes, la belle fête de mai, elle concerne aussi la jeunesse, hein, Christophe?
Non, oui, tout à fait, ça concerne la jeunesse. Cette année, les écoles, donc, ils sont aussi associés, alors ils sont partie prenante, au-delà d'être associés, c'est eux qui veulent être associés. Ils vont participer à la déco, les écoles participent à la déco de la belle fête de mai, pour
magnifique.
Pouvoir mettre derrière ensuite sur les fenêtres et décorer le quartier. Judith l'évoquait tout à l'heure, traditionnellement l'école maternelle Belle de Mai propose une chorale au lancement,
voilà,
le vendredi soir, et la grosse
dans la paroisse,
ouais, tout à fait. Et après la grosse nouveauté cette année, c'est l'école Cadena qui propose une fanfare.
Donc la fameuse fanfête, c'est bien
la
ça.
La fanfête, ouais, avec le festival de jazz des 5 continents en partenariat. Et voilà, donc du coup oui, tout le monde est associé, notamment les écoles, et ça c'est important à souligner. Tu évoquais aussi, Anthony, les soutiens, donc de remercier la ville de Marseille,
ouais,
et les partenaires, et notamment la ville de Marseille, puisque si la belle fête de mai perdure depuis plus de 25 ans, il y a eu des fluctuations, il y a eu des soutiens en moins sur certaines années, et là depuis 3-4 ans, la ville de Marseille, la nouvelle municipalité nous soutient. Depuis 2 ans, il y a un appel à projet des fêtes de quartier, et c'est une volonté forte de la municipalité. Effectivement, aujourd'hui, si la belle fête de mai est solide, si elle est ce qu'elle est, c'est parce que on a une collectivité de la ville de Marseille qui nous soutient. Donc on tient vraiment à remercier la ville de Marseille, les services des fêtes de quartier sous l'élu monsieur Edadi. On a cette année la culture qui nous a suivis aussi, puisque c'est un grand moment culturel et on c'est a les services de la culture qui nous soutient. Donc c'est important d'avoir une collectivité comme la ville de Marseille qui nous soutient et une mairie de secteur qui est partie prenante aussi de la fête, même si c'est pas par des subventions, c'est par des aides logistiques, c'est par le repas qui est offert le samedi soir. Voilà, donc on a vraiment une municipalité, que ce soit la mairie d'arrondissement ou que ce soit la mairie centrale qui nous soutient, et on tient vraiment à les remercier.
Parfait.
Mais après, c'est un gros effort de propreté à faire, etc. Donc, il y a quand même un soutien de logistique qui est important.
Tout à fait. Il nous reste 7 petites minutes sur l'endroit de galère. Richard reprend le relais, le temps que j'accueille les invités, mais on poursuit, évidemment, on est toujours en direct sur les ondes du 88.4 pour parler de la belle fête de mai, 25e édition, 23, 24 et 25 mai, avec Judith des Têtes de l'Art et Christophe de la Maison pour tous et de Léon Lagrange. Il y a encore des éléments à évoquer, des lieux et des temps forts incontournables. N'hésitez pas. Si on a oublié quelques éléments, il nous reste 6 minutes pour les développer sur les ondes de Radio Galère, Judith et Christophe.
Allez, parfait. Et bah, le troisième temps fort, évidemment, c'est le dimanche. Donc là, toutes les structures vont ouvrir leurs portes. Les structures qui ont participé sur toute la journée du samedi là ouvrent leur structure. Donc là, ce sera l'après-midi, donc à peu près de 14h à toute l'après-midi. On va retrouver par exemple les grandes tables qui vont proposer un atelier culinaire de cuisine d'Afrique pour les enfants. Donc là aussi, les enfants, ils sont concernés par la belle fête de mai. C'est pas que quelque chose qui est pour le public. Il y a aussi le cinéma Logiptis qui va proposer des projections de courts-métrages, et la sélection de courts-métrages a été sélectionnée par mot à mot. Et il y a aussi une troisième forme, on va dire, dans le dimanche de la belle fête de mai, c'est la déambulation. Il y a Tex Hors Contexte qui va proposer une déambulation théâtralisée dans tout le quartier de la belle fête de mai, et donc ça va aussi mobiliser les gens dans le quartier, comment le découvrir, comment marcher dans le quartier, découvrir des zones qui sont pas connues, au-delà des structures associatives et culturelles, aussi l'histoire du quartier, parce que donc la personne qui va s'occuper de la déambulation connaît très très, très bien le quartier. Et en plus, il y aura ce côté théâtral qui est super sympa. Il sera accompagné d'autres comédiens et comédiennes. Évidemment, sur Place Cafo, le dimanche, on va retrouver aussi Radio Galère, qui sera sur la terrasse du café théâtre. Donc, vous allez aussi pouvoir les écouter à ce moment-là. Il y aura des séances d'écoute. Il y a des invités aussi de la belle fête de mai qui seront présents et présentes. Des quiz, des infos locales de la musique. Et comme on disait tout à l'heure, en fait, la belle fête de mai, c'est ces 3 jours-là, mais il y aura aussi un after de la belle fête de mai, où là, ça sera Maloka qui interviendra avec ce fameux bal sévillan, le flamenco, et voilà.
Attention, entraînez-vous, hein, le bal fémillan, c'est...
Ah oui, si vous venez à l'after, il faut s'entraîner.
C'est une danse quand même particulière. Espagnol, bon, oui. Ben voilà, de valeur. Voilà, ben écoutez, formidable. Alors, une question, tiens. Alors, vous arrivez d'ailleurs, vous avez dit.
Exactement.
Vous étiez où alors ?
Alors, avant, j'étais à Nice, là, d'accord. Et je viens juste d'arriver sur.
Est-ce que vous avez été surprise par ça ?
Par le quartier, oui. La belle fête de mai, je dois dire que oui, complètement. Moi, j'ai déjà bossé un peu dans des associations culturelles, tout ça, mais j'ai jamais expérimenté, on va dire, toute cette collaboration, ce côté participatif.
On peut dire que c'est quand même énorme ce qui est fait. Hein.
Complètement.
Ça, je pense que, je sais pas si ça se retrouve par ailleurs, mais franchement, ici, il y a un travail formidable qui a été fait. Et quand on voit le programme, on se dit, bon, nom de Dieu, bon. Mais c'est vraiment formidable de voir la masse de travail qui a été faite, les efforts de ceux qui organisent, et les efforts participatifs de tous les gens. Je crois que C'est pas fréquent, quoi. Hein.
Les structures qui participent et aussi la richesse du COPIL, parce que c'est pas juste une association, une structure. Chaque membre du COPIL, en fait, arrive avec son expérience, ses savoirs, ses compétences. Et il y a aussi tout ce travail qu'on fait en collaboration. C'est pas une structure qui travaille de son côté sur qu'une seule partie de l'organisation. En fait, on travaille toutes et tous ensemble. Et c'est ça aussi qui fait notre richesse et qui permet à la belle fête de mai de fonctionner correctement.
Judith évoquait la mise à disposition des compétences, et ça, c'est chacun apporte ses connaissances, ses compétences, ses forces sur ce temps. D'ailleurs, on fait un appel, on a besoin de bénévoles, parce que cette organisation demande beaucoup de monde, et donc du coup, on a besoin de bénévoles. Donc, il y a un appel à bénévoles, vous pouvez répondre sur le Facebook de la belle fête de mai.
C'est ça. Alors, déjà, si vous voulez, aujourd'hui, on organise la réunion d'accueil de tous les bénévoles. Donc si vous souhaitez venir, c'est à 17h30 au comptoir de la Victorine. Mais bon, si vous ne pouvez pas être disponible, vous pouvez toujours vous inscrire sur le Facebook de la Belle Fête de Mai. Vous retrouvez toutes les informations. Il y a un formulaire, vous pouvez vous inscrire. Et on va aussi bientôt ouvrir notre site où vous allez pouvoir découvrir toute la programmation. Et en fait, pour les bénévoles, c'est pas juste nous aider sur déplacer des tables, des chaises. Non, en fait, on veut mobiliser les bénévoles sur différentes activités, que ce soit l'accueil des artistes, des gens, que ce soit une aide logistique, technique, que ce soit le catering. En fait, il y a on a beaucoup de besoins. Et en fait, on mobilise les bénévoles là-dessus. Et ça va être vraiment chouette. Moi, je vous invite à venir parce que c'est vraiment un moment cool, et puis les bénévoles auront des moments pour profiter de cette fête. C'est pas juste venir pour bosser, c'est aussi venir pour participer, être acteur, actrice de cette fête et profiter en même temps.
Bien sûr.
En fait, voilà, la fête, elle reporte vraiment sur cet engagement et différents types de bénévolat. On peut prendre l'exemple justement de l'affiche. L'affiche, elle est faite par une habitante historique du quartier qui est bénévole pour le coup et qui a l'habitude de faire les affiches et qui souhaite faire les affiches tous les ans. On lui demande, mais c'est elle qui le souhaite. Et donc Renée, c'est elle tous les ans qui fait cette affiche, qui est colorée. Et voilà, c'est un type de bénévolat qui est important.
Elle est installée en tant que professionnelle.
Elle était professionnelle. Aujourd'hui, elle a un autre métier. Donc dans son temps libre, d'accord, elle continue de mettre à disposition ses compétences.
Et on voit que c'est très réussi.
Tout à fait.
Vraiment, c'est une très très belle affiche, accrocheuse. Et on lui dit bravo, bien entendu. Hein. Elle s'appelle comment ce
Merci René. René.
C'est René, merci à René.
René,
c'est ça.
D'accord, avec un E alors.
Tout à fait.
Bon, eh bien, écoutez, on peut vous féliciter de tout le travail que vous avez fourni et qui est beaucoup de participants, de bénévoles.
Conclure, il nous reste une petite minute, 9h25, 26 sur les ondes de Radio Galère, mon cher Richard. Et le dernier mot à vous, Judith, à vous, à toi, Christophe, parce qu'on se tutoie et transparence, évidemment. Pour conclure, et on le rappelle, cette belle fête de mai qui aura lieu le 23, 24 et 25 mai, c'est la 25e édition et on sera ravis d'en faire partie et d'être partenaire. Christophe, Judith, le dernier mot.
Je veux juste vous inviter à venir, de venir faire la fête avec nous, 23, 24, 25 mai, de regarder nos réseaux sociaux, vous aurez toute la programmation sur les réseaux sociaux. Et encore merci à Radio Galère d'être présent pour la fête et de nous accueillir aujourd'hui.
Mais avec grand plaisir d'être, oui, j'allais dire, dans cette belle boucle et ce temps fort qui, on le rappelle, compte pour les Marseillais et les Marseillaises et compte pour le 3e arrondissement, mais pas que. Judith, pour conclure.
Pareil, venez toutes et tous à cette belle fête. Moi, là, c'est la première fois que j'arrive, mais même moi, en tant que partie prenante, j'ai hâte de voir ça parce que voilà, je connais les détails, mais en connaissant tout ça, voilà, ça va être cool, ça va être riche, on va s'amuser, on va s'enrichir, on va apprendre plein de choses. Donc venez et si vous voulez faire encore plus partie de cette belle fête, venez en tant que bénévole sur
Parfait.
La belle fête de mai. Voilà,
impeccable.
Merci beaucoup.
Merci, 25e édition, la belle fête de mai qui aura lieu, on le rappelle, 23, 24 et 25 mai. Radio Galère est partie prenante. Au plaisir de vous revoir. Bonne poursuite, parce qu'on sait que ce mois de mai va être intense pour vous sur l'organisation, le pilotage. Et puis on vous dit à très bientôt. Puis on se verra, Christophe, courant juillet pour parler de la belle fête de Saint-Mauron,
oui.
Évidemment.
Allez, super.
Avec
grand
plaisir.
Merci à vous.
Merci.
Lost Control sur les ondes de Radio Galère, Teddy Swims. Et on revient juste après pour parler du salon délivré et de femmes solidaires. Something's got a hold on me lately. No, I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in and the devil's knocking at my door. Times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me. Trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know I lose control when you're not next to me? I'm falling. Want your body like a fiend, like a bad habit. Bad habits, hard to break when I'm with you. Yeah, I know I can do it on my own, but I want that real fool. Oh, black magic and it takes two. Problematic. Problem is when I'm with you, I'm an addict. And I need some relief. My skin and your teeth. Can't see the forest through the trees. Got me down on my knees. Radio Galère 88.4, nous reprenons le cours de notre émission. Il est 9h31 sur les ondes de Radio Galère et c'est le volet consacré à un volet extrêmement attractif sur les ondes du 88.4. On va parler de femmes solidaires. Voilà, on les avait reçues l'année dernière, au mois de mai. On va parler du salon délivré qui aura lieu à la salle Bargemont le 6 et 7 juin. Mais avant d'évoquer ça, on va vous présenter, évidemment, parce que c'est quand même important de savoir qui on a à l'antenne. Michel Potoudis, qu'on connaît très bien sur les ondes de Radio Galère, qui est le coordinateur de Coude à Coude. Nous avons Annick Carcenti, qui est à la fois présidente de la section et du comité de Marseille, de l'association Femmes Solidaires de Marseille. Vous êtes également membre de la direction nationale et vous êtes accompagné de Madeleine Imbert, qui est également membre du comité de Femmes Solidaires. Avant d'évoquer ce salon, d'évoquer un petit peu toute la trame et toutes les perspectives, les attentes, on veut savoir qui est cette belle association que nous on connaît à Radio Galère, mais que pour le coup peut-être d'autres ignorent. On a quasiment 25 minutes, un peu plus de 25 minutes pour l'évoquer, et on veut tout savoir avec vous, Annick Carcenti, en tant que présidente. N'hésitez pas, Madeleine aussi, à compléter les propos, mais qui c'est, que faites-vous au sein de Femmes Solidaires, son historique, son organisation, son fonctionnement, son ADN. Puis après, un petit mot avec Michel pour nous expliquer cette connexion qui a lieu aujourd'hui sur les ondes de Radio Galère. Annick, s'il vous plaît.
Donc, je vais vous présenter très rapidement l'association Femmes Solidaires. Donc, c'est une association féministe, je vais aller quand même assez vite, qui est née en 1945, parce que ce sont les résistantes qui s'étaient battues pendant la guerre, qui, à la fin de la guerre, ont voulu continuer le combat pour améliorer le sort des femmes. Et cette association, à ce moment-là, s'appelait l'Union des Femmes Françaises. Nous avons changé de nom assez rapidement, et maintenant, on s'appelle Femmes Solidaires. Donc, notre association, à peu près 200 comités sur tout le territoire français. Nous sommes bien sûr féministes, nous nous battons pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes dans cette société, ce qui implique aussi des changements de rapports sociaux, parce que là actuellement ce n'est pas possible, ce n'est pas réalisable. Nous sommes universalistes, pour nous, quel que soit l'endroit où les femmes se battent, leur couleur de peau, leur religion, leurs coutumes, etc., quand elles gagnent, elles font gagner toutes les femmes. C'est en ce sens qu'on se dit universaliste. Nous sommes laïcs, nous y tenons beaucoup. Bon, je ne vais pas aller plus loin. Nous sommes.
Non, mais
bien sûr...
c'est quand même intéressant, Annick, parce que quand on a préparé l'émission et quand on l'a diffusée autour de nous, on nous a dit de. C'est quoi exactement ? Et c'est important de parler de l'engagement. Évidemment, on ne va pas en faire. On va pas l'évoquer pendant deux heures, mais vous l'avez si bien évoqué en quelques mots, ça permet de comprendre en tout cas l'ADN de la structure. Et au-delà du fait que vous dites on est féministe, l'objectif c'est évidemment. Le mieux vivre ensemble, de développer cette sensibilité humaine, la dimension humaine, et évidemment, je trouve que le terme universaliste, il veut dire beaucoup de choses, et il devrait être approprié, pas uniquement, il devrait être approprié à l'homme avec un grand H, si vous voyez ce que je veux dire.
Oui.
Voilà, donc c'est important de l'évoquer. C'est un combat qui vous a toujours caractérisé, Annick, Madeleine, depuis quand on est féministe, et est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore plus difficile qu'avant?
Alors,
rapidement, hein, c'est
oui,
juste pour voilà.
Donc, juste, je voulais quand même finir sur ce qu'on est parce que c'est important. On se bat donc aussi contre toutes les violences faites aux femmes, qu'elles soient physiques, psychologiques et économiques. C'est très important aussi. Et dans cette bataille contre les violences, nous avons intégré. C'est ce qui fait aussi notre particularité avec d'autres associations féministes aussi, mais c'est une divergence au sein du féminisme. Nous pensons que la prostitution est une violence extrême faite aux femmes, prostitution, pornographie, pédocriminalité, tout ça, ça forme un tout, et donc nous sommes abolitionniste de la prostitution. Nous pensons que la prostitution n'est pas un métier. Nous sommes abolitionnistes de la prostitution. Et en cela, nous sommes d'accord avec la loi de notre pays. La France est un pays abolitionniste. Il ne punit pas les prostituées, ça sert à rien. Par contre, il punit les clients, les proxénètes, etc., etc. Et deuxième version, il permet aux prostituées qui le veulent, et elles sont nombreuses, elles s'appellent d'ailleurs les survivantes, de quitter la prostitution à condition qu'elles soient aidées. Ça, c'est la loi française.
Le message est dit, vous faites bien de l'évoquer, Annick.
Et nous sommes aussi, bien sûr, contre tous les obscurantismes, qu'ils soient religieux ou politiques. D'ailleurs, pour le 1er mai, nous allons défiler avec d'autres associations en disant un travail égal, salaire égal, c'est le 1er mai, mais il y aura aussi sur la banderole les féministes contre l'extrême droite.
Important de le rappeler. Mais Madeleine Imbert, bonjour à vous.
Bonjour.
En tout cas, merci d'être avec nous en tant que membre du comité de Femmes Solidaires. Un mot un petit peu voilà sur l'ADN, en tout cas sur ce qui vous caractérise et cette implication au sein de l'association. Et ensuite, pour développer évidemment ce premier salon délivré qui aura lieu salle Bargemont 6 et 7 juin. Madeleine Imbert.
Alors moi, je me suis engagée à Femmes Solidaires pour les raisons qu'Annick a évoquées, c'est-à-dire pour essayer d'aller vers l'égalité entre les hommes et les femmes et les autres, les égalités de tout le monde. Et je suis très intéressée par le salon parce que je participe déjà à d'autres, en tant que bénévole, à d'autres salons littéraires. Je trouve que c'est extrêmement important, les salons littéraires. Ça fait connaître ici notre association, ça fait connaître le mouvement féministe, ça va faire connaître des auteurs qui sont peut-être pas au départ extrêmement connus et qui donc vont pouvoir exprimer leurs idées et présenter au public qui viendra leurs travaux, leurs livres. Voilà.
Intéressant en tout cas. Michel, un mot, on te connaît évidemment, le coordinateur de Coude à Coude. Donc bonjour à toi évidemment dans un premier temps.
Bonjour, merci. Voilà.
Merci à toi d'être présent et merci d'avoir été encore une fois très réactif. Un mot sur cette connexion et pourquoi tu as voulu en tout cas mettre en avant aujourd'hui Femmes Solidaires pour ce salon délivré.
Alors on parlait d'ADN tout à l'heure, l'ADN de Coude à Coude, on est une association qui a été créée pour partager les savoirs qui sont utiles à l'action collective, et pas n'importe quelle action collective émancipatrice et contre les dominations. Et parmi les dominations, ben, il y a celles qui pèsent sur les femmes, évidemment. Et donc, on est sur tous ces terrains. On peut organiser du partage des savoirs sur la lutte des classes. Les classes sociales existent et elles sont toujours en lutte, même si parfois on a l'impression que c'est compliqué. On est sur les questions du racisme et évidemment aussi sur les questions du féminisme. On a deux coprésidentes et un bureau où il y a plus de femmes que d'hommes.
Et c'est important de le rappeler.
On a organisé plus de choses sur la question féminine cette année que l'année d'avant, au mois de mars beaucoup.
C'est tout à votre honneur.
Et donc c'est tout à fait naturel. Le salon délivré, ça propose du partage des savoirs à travers des expositions, à travers des livres. Il y a des auteurs qui sont présents, on peut les questionner.
On va l'évoquer, les documentaires.
Il y a des films.
Et
donc c'est naturel, hein, c'est absolument naturel. Et puis on a une vocation aussi à rassembler, à travailler avec un très grand nombre d'associations, et de ne pas prendre leur place mais travailler avec, et puis à éclairer des débats. On n'a pas vocation à trancher les débats. Par exemple, l'année prochaine, on organisera très probablement un débat sur la prostitution avec l'association LONI, dont Annick pourrait très bien parler. L'année prochaine, par exemple, quand on organisera le débat.
Et on va en parler sur les ondes de Radio Galère, d'ailleurs, pour évoquer la date, évidemment.
Et donc, c'est un partenariat naturel, comme avec d'autres associations qui sont sur des terrains, sur des combats sur lesquels nous sommes nous-mêmes engagés.
Excellent, en tout cas, et encore merci, Michel. On y vient sur ce salon. Annick, Madeleine, parlez-nous un petit peu de la naissance de ce projet-là. C'est dans 5 semaines. Les flyers sont en train d'être préparés. Toute la communication est en train de se développer. Quelles sont les attentes à l'égard de ce salon qui, on le rappelle, sera inédit. C'est une première à Marseille, salon délivré EES. Vous l'avez bien saisi, évidemment, ça va de soi. Parlez-nous de tout ça, Annick, puis évidemment Madeleine Imbert.
Alors avant, je voudrais juste dire un mot sur notre revue, Clara Magazine.
Exactement,
Femmes Solidaires a une revue qui s'appelle Clara Magazine. Avant, c'était Les Heures Claires, quand l'association s'appelait l'Union des Femmes Françaises, c'était Les Heures Claires. Maintenant, c'est Clara Magazine, du nom de Clara Stetink, bien sûr, que tout le monde connaît. Zetkin, pardon, excusez-moi. Et donc, cette revue paraît tous les 2 mois. Vous ne la trouverez pas dans les kiosques. Elle est simplement, on la reçoit simplement par la poste. Et donc cette revue, eh bien, c'est une des seules revues féministes qui existent en France. Et cette revue féministe, eh bien, elle permet d'avoir une idée sur les luttes, d'avoir une idée sur ce qu'on est. Elle a de grands dossiers et comme nous sommes attachés aussi à la culture, preuve de que nous faisons des salons littéraires et féministes.
À l'aspect littéraire, évidemment. Il faut conserver ça à l'heure des écrans et autres. Important de conserver, de protéger l'aspect littéraire.
Il y a aussi des bilans de livres. Il y a aussi des interviews d'auteurs et d'autrices. Il y a des bilans de pièces de théâtre, de films, parce que nous pensons que l'éducation et la culture, c'est quand même aussi un moyen de se libérer. Voilà pour Clara Magazine que je voulais quand même présenter. Alors, nous avons, il y a Le salon délivré existe depuis 4 ans. Il a existé les premières années seulement à Paris, et devant le succès quand même important, nous avons décidé de le décentraliser en province, donc en 2024 et en 2025.
Et donc, ça c'est quand même une bonne nouvelle.
Décentraliser, ça me fait drôle de parler décentraliser en parlant de Marseille, mais c'est vrai. Nous l'avons décentralisé à Marseille, et donc à le 6 et 7 juin, c'est la première mouture, si j'ose dire, du salon délivré à Marseille, salle Bargemont.
Qu'est-ce que ça vous inspire, Madeleine, ce salon délivré? Qu'est-ce que ça va engendrer? Quelles sont les attentes à l'égard de ce salon?
Et d'autant qu'il y a d'autres villes, il n'y a pas que Marseille.
Tout à fait.
Il y a aussi Lyon, Bordeaux. Donc, ça se fait un petit peu dans toutes les villes de France. C'est très important parce qu'en fait, comme ça, ça met le féminisme en avant dans tous ces salons, et ça permet de connaître beaucoup d'écrivaines qui sont pas forcément extrêmement connues sinon, et donc
mais qui ont du talent,
bien sûr, et aussi de rencontrer du public, de l'informer, de faire prendre conscience à tous nos visiteurs éventuels, j'espère qu'ils seront nombreux, de ce qui se passe.
Exactement. Voilà. Et on y vient justement sur la programmation. Que va-t-on voir le 6 et 7 juin à la salle Bargemont, pour notamment assister à ce salon, puisqu'on a tout à l'heure, Michel l'évoquait avec pertinence, il y a des auteurs forcément, il y a des films documentaires, il y a un concert qui aura lieu le 7, il y a des expositions, on peut évoquer un petit peu d'ailleurs les expositions en lien aussi avec Gaza, avec la Palestine, j'ai même vu un éclairage sur l'Afghanistan, enfin il y a beaucoup de choses, le spectre est large, et évidemment il est basé sur... encore une fois, la dimension humaniste qui vous est chère.
Oui, et féministe, bien sûr,
féministe,
que l'on rencontre partout. Alors, si je commence, puis après,
je vous en prie.
Donc, il va y avoir, bien sûr, des interviews d'auteurs et d'autrices, puisque c'est le plus important. Il va y avoir des expositions. Il va y avoir des films. Il va y avoir de la musique. Et je pense qu'en plus, tout cela va se passer dans un beau cadre. Cette salle Bargemont, elle est belle. Et je remercie, bien sûr, la mairie de nous l'avoir prêtée. Et j'espère aussi dans un cadre convivial et sorore d'échanges importants. Alors, peut-être qu'on peut commencer par... donc, le samedi, si je peux rentrer un petit peu dans les détails. Est-ce que je rentre dans les détails maintenant? Oui.
Oui, pour la programmation, alors, c'est intéressant. On me demande juste, alors ça aussi, comme on n'a pas le standard, si on est désolé, auditeur auditrice, on a ce petit problème d'interaction, on me demande si c'est un salon qui est gratuit.
Oui, bien sûr.
Et notamment de rappeler les horaires. Et pour le coup, certains me disent, je sais pas où c'est, la salle Bargemont.
Alors,
donc, on va l'indiquer, préciser tout ça.
Alors, bien sûr, ce salon est gratuit, j'avais oublié de le dire. Ce salon est gratuit. Il se tient salle Bargemont. La salle Bargemont, c'est la salle qui est complètement à côté de la mairie. Du vieux port, on voit la salle Bargemont, donc tout le monde va trouver. Donc le vendredi, ça commencera à 11h et ça finira à 22h par le documentaire qui s'appelle Algérienne en France, l'héritage, de Bouchera Azouz. Et le samedi, il commencera à 10h par le premier interview de la première autrice, et il se terminera à 22h, voire peut-être 23h, par le concert de notre amie Christina Rosmini. Et il y aura, et donc avant, on peut faire peut-être passer en détail les invités si c'est intéressant.
Oui, facile.
Oui. Alors, le vendredi.
Alors donc le vendredi à l'ouverture et à l'inauguration.
Et d'ailleurs, vous êtes cordialement invité à l'ouverture et à l'apéritif d'ouverture, ouais. Radio Galère.
Très bien, merci de le rappeler, c'est très gentil.
Et donc toutes les personnes qui seront présentes aussi seront invitées à cet apéritif. Et après, on va commencer avec la visite des expositions. Donc pour l'instant, l'exposition qui est certaine, c'est Kurdistan au féminin.
Les deux sont certaines.
Ah, les deux. Bon, alors. Donc, il y a déjà une exposition Kurdistan au féminin avec Sylvie Jean. Et puis, il y a une exposition d'une dessinatrice qui a fait des dessins en direct pendant le procès, donc, de Mazan. Et donc, qui sera présente, elle aussi, pour commenter ses dessins. Voilà. Ça, c'est pour les expositions. Et c'est donc après, à 14h, que commencera la première rencontre.
Alors justement, on y vient sur les rencontres, parce que un salon du livre, il est forcément dédié aux rencontres, aux échanges. Qui va-t-on voir? Et en tout cas, quelle sera un petit peu la trame? Parce qu'on parle évidemment d'un mouvement féministe, mais est-ce qu'on a aussi une trame littéraire, une trame d'engagement? On va parler des différents documentaires, voilà, basés notamment sur des drames. Il faut pas l'oublier. Ce sont des documentaires qui sont poignants, qui ont du sens. Que va-t-on voir au salon délivré, Madeleine et Annick?
Ben, nous sommes féministes, oui. Nous avons quand même un ADN important auquel nous tenons. Donc, ça peut être un salon de débat, bien sûr, mais nous voulons quand même affirmer qui on est. Et donc, dans ce cadre-là, c'est à partir de l'affirmation de qui on est que nous avons invité un certain nombre d'autrices et d'auteurs. Alors, ça a été compliqué, hein, parce qu'il y en a qui voulaient venir, qui sont pris ailleurs. Donc, il a fallu faire un choix. Voilà. Donc on a fait ce choix-là. Bon, après c'est notre choix. Voilà, c'est notre choix.
C'est votre choix, il est largement respectable.
Par exemple, les violences féministes touchant tous les niveaux, nous avons aussi accès des rencontres avec une sportive, puisque dans ce cadre-là, la lutte contre les violences qu'ont subi les sportives et les sportifs aussi dans le cadre de leur entraînement, ça marque beaucoup. Donc la première invitée est une sportive. Elle s'appelle Paoline Ekambi. C'est une basketteuse et elle a écrit. Elle a été violentée par son père, incestueux. Ensuite, elle a subi des violences de la part de ses entraîneurs. Donc Paoline Ekambi, eh bien, elle a écrit un livre qui s'appelle Ma promesse en héritage. Et elle
Ma
va donc venir.
En héritage.
Et elle va donc venir parler de ce qu'elle a subi et de comment elle est quand même arrivée, malgré tout, grâce au sport, à être une grande championne.
Et ça, c'est quand même extrêmement intéressant parce que ce sont aussi des parcours qui ont été forcément dramatiques, mais qui permettent de se dire qu'on peut se dépasser et le sport est un vecteur qui permet aussi le dépassement de soi et de pouvoir, en tout cas, s'épanouir alors qu'on a subi quelque chose de évidemment impardonnable et inqualifiable. Il y a peut-être Michel qui voulait peut-être rajouter un propos, il me semble.
Ce sont des témoignages, donc c'est tout à fait important, mais je pense qu'elle va aussi témoigner du fait que le sport n'est pas le monde des bisounours et qu'on y subit aussi des inégalités, des violences, bien sûr.
Oui, vous faites bien. Bien Madeleine acquiesce également en ce sens-là.
Oui, absolument.
Et donc, parlez bien face au micro, s'il vous plaît.
La rencontre suivante sera avec Béatrice Stora à propos de l'antisémitisme. Le livre, c'est Antisémitisme, un meurtre intime. Et donc, elle dit que, en dépit de la Shoah et de tout ce qui s'est passé après, le discours antisémite n'a pas changé. Et donc, ça va être le thème de cette rencontre et de ce livre.
Nous aurons une autre autrice qui s'appelle Virginie Perret. Elle est régionale. C'est une même marseillaise. Donc, elle a écrit Chute, c'est un secret. Elle travaille beaucoup avec les enfants. Mais justement, nous intervenons aussi au niveau scolaire. Donc, elle, c'est l'inceste qu'elle traite à travers ses livres. Après.
Thème extrêmement dramatique et évocateur, évidemment.
Oui.
Après, donc, nous aurons une heure de solidarité avec les Afghanes et les Iraniennes, puisque nous avons invité une jeune femme afghane qui est en France depuis pas très longtemps, qui s'appelle Mursal Sayas, et nous avons aussi invité, elle est en France depuis plus longtemps, Shirin Ardakani, qui est avocate, qui d'ailleurs défend aussi les gens emprisonnés en Iran et qui est donc franco-iranienne. Elles viendront nous présenter donc leurs deux livres, Qui entendra nos cris pour l'Afghane et Des Iraniennes, Femmes, Vie, Liberté pour les Iraniennes.
On peut rappeler l'horaire s'il vous plaît?
Oui,
c'est
pardon.
Sur le 6 juin
Ça sera donc le 6 juin de 17h45 à 18h45. Et chaque fois, donc.
Important de le rappeler, oui.
Chaque fois, donc, il y aura un petit 5-10 minutes pour des questions et des interventions dans la salle. Et chaque fois après, il y aura une séance de dédicaces. Parce que les gens sont aussi intéressés. Quand ils ont entendu leurs auteurs, ils aiment bien qu'il y ait des dédicaces.
Forcément, ça fait partie de la trame et du jeu.
Et suite à ça, toujours dans le cadre de l'Afghanistan et de l'Iran, nous aurons une amie iranienne qui est là en France et à Marseille, qui s'appelle Negin Falahi et qui viendra lire quelques poèmes iraniens.
Très bien.
En deux versions, je crois. Elle lira en iranien et en français. Et pour terminer la journée, il y aura le film Algérien en France, L'Héritage, film de Bouchera Azouz. Et la rencontre sera animée par Sonia Messaouadi, qui est journaliste, justement, au journal Clara.
Exactement, Clara Magazine, on le rappelle, c'est mensuel. Bimensuel, voilà.
Et oui, parce que c'est lourd, hein, les journaux, donc voilà, c'est bimensuel. Oui.
On n'en doute pas. 9h52 sur les ondes de Radio Galère, il nous reste 8 minutes pour conclure cette émission dédié notamment à Femmes Solidaires et pour parler du salon délivré qui aura lieu le 6 et 7 juin à la place Bargemont. Michel Potoudis est avec nous, coordinateur de Coude à Coude, Annie Carsanti donc de Femmes Solidaires et également Madeleine Imbert. Je vous laisse peut-être développer les petites minutes qui nous restent. Michel, n'hésite pas évidemment à compléter. Et puis nous, on gardera 2-3 minutes parce qu'il y aura des annonces, oui, notamment de Coude à Coude et des dates clés à ne pas oublier.
Alors, pour le samedi 7 juin, je vais aller vite. Donc, nous allons commencer la journée bien pleine. Nous commencerons à 10h par une autrice de polar qui s'appelle, elles ont constitué un groupe, elles sont dans le Var essentiellement et elles s'appellent les Louves du Polar. Après, nous aurons, parce que ça touche bien sûr les hommes et les femmes aussi, nous aurons une autrice qui a écrit « Vieillir, une affaire de femme ». Cette autrice, c'est Florence Brault. Ensuite, nous aurons une restauration conviviale. D'ailleurs, vous pourrez venir, si vous êtes là toute la journée, vous pourrez vous restaurer sur place. Génial. Ensuite, nous aurons Pinard Selek. On en a parlé de Pinard Selek, parce qu'il y a encore eu son procès à Istanbul. Hein, le Erdogan et le gouvernement turc la pourchassent depuis 30 ans. Et donc, il y a eu encore une audience, bien sûr, qui a été nulle et non avenue, qui n'a rien prouvé, puisqu'elle n'est pas... Elle est accusée de rien. Voilà, donc il y aura Pinard Selek. Ensuite, nous aurons une jeune autrice qui s'appelle Lucille Pétavin et qui a écrit un livre. C'est vraiment, il faudrait que tout le monde le lise, qui s'appelle Le coup de la virilité. Ensuite, nous aurons Gérard Billard, le rédacteur en chef de Charlie Hebdo. Alors là, il est là pour deux raisons. Un, il y aura donc un hommage, parce que cette année, c'est les 10 ans, l'anniversaire des 10 ans de l'attentat à Charlie. Et Richard Billard est à l'origine des créations des groupes Zéro Macho, qui, leur combat s'intègre dans la lutte féministe. Et puis nous finirons par Anna Assouline, donc Les Guerrières de la Paix, qui viendra présenter son livre et qui viendra présenter son film qui s'appelle Résister pour la paix. Et nous finirons après, comme je l'ai dit, par le concert de Christina Rosmini. Voilà, journée bien chargée, mais je pense qu'elle sera riche en émotions.
On n'en doute absolument pas. Michel, peut-être deux mots pour compléter cette jolie programmation. Madeleine, n'hésitez pas, si vous avez des compléments d'information, vous êtes évidemment libre de nous les transmettre.
D'accord.
Oui, moi j'aurais tendance à dire il faut qu'il n'y ait pas que des femmes dans ce salon, qu'il y ait aussi des hommes, parce que l'éducation à un féminisme intelligent, ça doit entraîner les hommes. On a malheureusement une proportion très forte de femmes quand on fait des événements féministes. Et il faudrait que les hommes comprennent que le dialogue est nécessaire et que tout ce qui est gagné du côté de l'égalité, c'est bon pour l'ensemble de la société et pas simplement pour les femmes. Et donc oui, c'est un programme très riche.
Je bois tes propos.
Est très intéressant et qui doit permettre pas mal de débats. Moi, je suis sensible comme prof d'économie au travail discutable, mais qui suscite vraiment beaucoup de réflexions de Lucille Pétavin, le coup de la virilité. On n'a pas le temps de présenter ici, mais c'est vraiment original comme travail. Elle est historienne et économiste à la fois. Donc voilà, je ne peux que dire qu'on y sera et que on va appeler les gens à venir à ce festival. De même que l'on festival, salon, on peut l'appeler de plusieurs façons. De même qu'on va appeler les gens à d'autres événements dont on pourra parler tout à l'heure s'il reste une minute.
Bien sûr, et on va garder une petite minute.
Juste, merci Michel pour tout ce que tu viens de dire. Bien sûr, et on l'a écrit, ce festival est ouvert aux femmes et aux hommes. Et bien évidemment, hein, voilà.
C'est important de le rappeler.
Oui, il nous reste trois petites...
pas mal de personnes aussi bien masculines que féminines qui viennent écouter les autrices. C'est important pour les deux.
On est bien d'accord avec ça. Il nous reste 3 petites minutes. Je vous laisse, mesdames, nous évoquer peut-être encore une information, un complément. N'hésitez pas.
Alors, un petit complément. Il y aura en plus des invités qui auront chacune une interview d'à peu près 1 heure. Nous avons aussi une table de dédicaces. Et à cette table de dédicaces, eh bien, elle sera composée d'autrices et d'auteurs. Donc, elles seront là pendant toute la durée du salon délivré. Donc, je vais vous donner leur nom et puis en même temps, pourquoi elles viennent. Donc, il y aura Hélène Échinard, qui est une féministe de longue date et qui viendra présenter le dictionnaire des Marseillaises dans sa 3e édition. Il y aura ensuite Marie-Françoise Montebello, qui viendra nous présenter la traversée des macaronis et les ailes E2LES de Marseille. Il y aura Chantal Champé qui viendra nous parler des bombardements du 27 mai 1944, les Marseillais racontent. Il y aura Yvonne Montéou qui viendra nous présenter son livre Une vie violée et 100 fois se relever. Et il y aura aussi, donc j'en reparle, il y aura aussi.
Allez, pour conclure, Annick, s'il vous plaît.
Oh ben, ça sera mis dans le. Il y aura aussi nos amis iraniens.
Très bien, vous faites bien. Madeleine, peut-être un dernier mot pour conclure.
J'espère, moi, que tout va fort bien se passer, puisque c'est quand même une nouveauté. On ne sait pas trop au départ comment ça va se présenter. On espère avoir beaucoup de monde qui viendra nous écouter et qui viendra rencontrer les écrivains et les écrivaines qui seront avec nous.
Eh bien, en tout cas, vous nous avez donné et suscité notre curiosité. J'allais dire nous, hommes ou femmes, salon délivré 5 et 6 juin, Bargemont. Il faudra vous y rendre.
6 et 7, je
m'excuse. 6 et 7 juin. J'ai dit 5 et 6 ? Autant pour moi. 6 et 7 juin, vendredi. 6 juin et samedi 7 juin à la salle Bargemont. Merci mesdames. Un dernier mot pour conclure.
Merci beaucoup.
Mais avec grand plaisir. Michel, tu as une petite minute.
Alors, oui, pour annoncer 2 ou 3 événements de coup à coup au mois de mai. Le 15 mai à l'Hyperion, salle de musique 2 avenue du Maréchal Foch, un débat qui est le débat mensuel dans le cadre de Débattons-nous avec le soutien de la mairie du 4e et 5e arrondissement. Ça sera sur les logiques sociales du vote, des comportements électoraux, l'abstention, la volatilité électorale, le vote pour l'ERN, avec 2 professeurs de sciences politiques, Philippe Aldrin qui enseigne à Sciences Po à Aix, et Christelle Lagier qui enseigne à l'université d'Avignon, et un militant qui agit pour combattre l'abstention. Donc un débat politiquement important. Le 17 mai, un ciné sciences sociales à l'Alcazar, organisé par l'association des profs d'économie que nous soutenons, la Belle Verte pour la transition vers un monde différents, meilleurs. Et puis je voudrais signaler le 22 mai, le jeudi 22 mai, au Pâté Madeleine, la seule possibilité de sortie du film Un médecin pour la paix, qui décrit Gaza, les massacres à Gaza, mais aussi la solidarité, l'action humanitaire et la vie parallèle de Gaza et de ce médecin qui a perdu la quasi-totalité de sa famille dans les combats et qui mène un combat humanitaire tel que ça suscite l'admiration. Donc ça sera une soirée importante de solidarité et aussi de transmission de ce qui se passe à Gaza.
Parfait, merci Michel pour ces rendez-vous. Merci encore à Femmes Solidaires, Annick et Madeleine d'avoir été avec nous. On se retrouve nous la semaine prochaine de 8h à 10h sur les ondes Radio Galère. Et n'oubliez pas, vendredi 6 et samedi 7 juin à la salle Bargemont, le salon délivré. Merci, au plaisir de vous revoir mesdames et messieurs, puisque évidemment on intègre Michel.
Merci
au plaisir,
beaucoup.
On se retrouve la semaine prochaine.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci à vous.